Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour votre grand journal sur Europe 1. Deux heures d'infos, de débats, de découvertes encore en ce dimanche 17 novembre. Et à la une, l'horrible réalité du féminicide en France. 136 femmes mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs conjoints. Les défaillances de l'État, l'attente des familles et des associations. On en parle à 18h15. 18h30, on va en entendre parler, ça commence demain, le congrès des maires de France. 18h50, une chanson dans la tête. Vous entendrez quel est le point commun entre Patrick Bruel, Sophie Marceau, Françoise Hardy ou Zaz.
Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
Eh bien, c'est un succès qui commence par petites annonces. C'est à suivre avec Fabien Lecoeuvre sur Europe 1. 19h15, Venise sous les eaux. Faut-il participer aux dons pour aider la ville dans cette épreuve? Avant 19h30, le grand débrief de l'actu. Je reçois ce soir la sénatrice Laurence Rossignol, ancienne ministre en charge du droit des femmes, et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Soyez les bienvenus, les 18h. Voici d'abord le journal présenté par Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1.
Là, ce que la ministre dit, c'est qu'il faut que les lois soient appliquées. C'est une bonne chose. La question maintenant qui se pose, c'est quels moyens elle va mettre sur la table pour appliquer ces lois.
À une semaine de la fin du Grenelle des violences conjugales, la garde des Sceaux dit clairement qu'il y a des failles dans le système judiciaire pour prendre en charge les femmes victimes de ces violences et qui osent parler.
Journée plus calme sur le front des Gilets jaunes au lendemain des violences de la place d'Italie avec une action symbolique, une trentaine de manifestants qui investissent un grand magasin parisien.
Pour acheter un bracelet, il y a besoin de 5 SMIC. On n'en peut plus qu'il y ait des gens qui viennent là et qui en après-midi dépensent ce que des gens mettent 6 mois à gagner, c'est incroyable.
Toujours 70 000 foyers privés d'électricité en région Rhône-Alpes, 3 jours après les chutes de neige.
1 milliard, c'est ce que les particuliers ont déjà souscrit pour devenir actionnaires de la Française des Jeux à 2 jours de la fin de l'opération.
Et puis l'escalade, bientôt discipline olympique, avec de plus en plus d'adeptes et pas que des initiés.
C'est très chouette. Ça aide à travailler sur pas mal d'aspects, autant de sa personnalité qu'au niveau physique, avec des muscles qu'on se découvre petit à petit.
On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue à vous tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Fabienne Lemoyle, on commence ce journal par un constat et un chiffre édifiant à une semaine de la fin des consultations pour le Grenelle des violences conjugales.
Dans près de 40% des cas, les femmes victimes de leurs conjoints avaient déjà osé parler aux gendarmes, aux policiers des violences qu'elles avaient subies. Et pourtant, cela n'a pas été pris en compte pour éviter que ce conjoint n'attente ou n'essaie d'attenter à leur vie. Chiffre d'une étude inédite de la Chancellerie révélée ce matin par le Journal du Dimanche avec cet aveu de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui dit très clairement cela ne va pas et qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait plus de failles, Marion Gauthier.
Oui, et la principale de ces failles, c'est la prise en compte des plaintes. 80% sont classées sans suite, alors même que les victimes ont des difficultés à parler des violences qu'elles ont subies. 22% d'entre elles n'ont jamais passé la porte d'un commissariat. Un autre problème se pose. Sur les 88 cas d'homicide étudiés par l'inspection générale de la justice, une seule ordonnance de protection a été rendue. Or, c'est par ce document qu'un juge décide d'éloigner un conjoint violent, de l'empêcher de rester au domicile conjugal par exemple. Parmi les solutions avancées, le développement de la formation des magistrats, des policiers et des gendarmes ou encore la levée du secret médical. Pour Caroline Dehas du collectif Nous Toutes, la prise de conscience est importante mais insuffisante.
La loi aujourd'hui contient plein de dispositifs qui sont hyper positifs. La formation des professionnels est déjà dans la loi. L'ordonnance de protection est déjà dans la loi. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'applique pas les lois qu'on vote, ou en tout cas qu'on les applique insuffisamment. Donc là, ce que la ministre dit, c'est qu'il faut que les lois soient appliquées. C'est une bonne chose. La question maintenant qui se pose, c'est quels moyens elle va mettre sur la table pour appliquer ces lois. Je rappelle que le projet de loi de finances de 2020 ne prévoit aucun, quasiment aucun moyen supplémentaire pour lutter contre les violences.
Et autour de revendications qui seront portées samedi prochain, 23 novembre, lors de la marche contre les violences sexistes et sexuelles, 2 jours seulement avant la fin du Grenelle des violences conjugales.
Marion Gauthier, aujourd'hui une marche blanche en hommage à Sylvia, tuée par son conjoint dimanche dernier dans le Bas-Rhin, réunit 300 personnes dans les rues de Oberhofen sur Modère, derrière une banderole où l'on pouvait lire « Repose en paix, justice sera faite ».
18h15, juste à l'issue de ce journal, je reçois Emmanuelle Rivier, avocate au barreau de Paris, spécialiste des violences conjugales, qui nous éclairera sur les dossiers qu'elle traite, hélas, au quotidien. Encore 155 personnes en garde à vue ce matin après les violences qui ont marqué le premier anniversaire hier des Gilets jaunes. En tout cas, ce sont 173 personnes en tout qui ont été interpellées à Paris et 254 à travers toute la France.
Des comptes donnés ce matin par Christophe Castaner sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur qui a condamné très fermement ce qui s'est passé hier place d'Italie.
Hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre des brutes, des voyous, qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies. On n'a pas vu des méchants flics agresser de gentils manifestants. On a vu des barbares, mais ce sont aussi des imbéciles. Vous savez, on peut être à la fois imbécile, brute et voyou. Hélas, certains n'ont pas le monopole. Par exemple, ces policiers pourchassés qui se réfugient dans une laverie. Ouais. Un des deux auteurs a été interpellé, je m'en réjouis. Et en même temps, ça me permet aussi de saluer le sang-froid de nos policiers. Vous avez vu ces scènes de cette violence-là. Ils sont attaqués dans la laverie. Ils sont armés. Ils ne sortent pas leurs armes. Et ça, c'est ce qu'au fond les policiers font et les gendarmes tous les jours.
Christophe Castaner, invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Journée beaucoup plus calme aujourd'hui sur le front des Gilets jaunes qui voulaient encore marquer le coup de ce premier anniversaire avec une mobilisation assez faible. Ils étaient 200 réunis au hall avec deux figures du mouvement, Jérôme Rodriguez et Priscilla Ludowski. Et une action symbolique menée par quelques dizaines de Gilets jaunes qui ont investi Théo Manval, le grand magasin des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann.
Oui, ils s'étaient donné rendez-vous discrètement sur un quai de métro et ils ont réussi, peu avant 13h, à déjouer la sécurité pour parvenir jusqu'au troisième étage des Galeries Lafayette, d'où ils ont entonné des chants d'anniversaire pour les 1 an du mouvement et déployé surtout une banderole au slogan anticapitaliste. C'était le symbole de l'action du jour, expliquent Érico et Anaïs.
La grande consommation, c'est les Galeries Lafayette. Attends, c'est...
Pour acheter un bracelet, il y a besoin de 5 SMIC. Et le but, c'était de l'occuper pour montrer qu'on n'en peut plus de ce monde-là. On n'en peut plus qu'il y ait des gens qui viennent là et qui en l'après-midi dépensent ce que des gens mettent 6 mois à gagner.
Il y a des riches qui s'enrichissent encore plus, les entreprises ils gagnent de plus en plus, et alors qu'il y a une classe pauvre, une classe moyenne de plus en plus pauvre.
Alors il n'y a eu ni casse, ni clients ou salariés bousculés. Après quelques minutes à peine, le service de sécurité évacue, gilets jaunes et journalistes confisquent quand même certains téléphones pour éviter que des images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Dehors, les CRS procèdent aux interpellations. 135 euros d'amende par personne pour manifestation non déclarée. Par crainte d'un retour des manifestants, la direction des Galeries Lafayette a décidé de fermer le magasin jusqu'à demain matin et ne fait pas d'autres commentaires ce soir.
Théo Manval, et noté qu'en Savoie, une soixantaine de personnes ont rendu hommage ce matin. Chantal Mazet, c'est cette femme gilet jaune qui avait été mortellement renversée par une voiture au premier jour de la mobilisation sur un rond-point de cette petite ville proche de Chambéry.
Un milliard, c'est donc le montant souscrit déjà par les particuliers pour devenir actionnaire de la Française des Jeux.
Annonce faite ce matin par le ministre de l'économie Bruno Le Maire à 2 jours de la fin de cette souscription, Maud Descamps.
Oui, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un tel engouement en Bourse de Paris, si bien qu'il risque d'y avoir embouteillage parce que le gouvernement avait prévu d'ouvrir seulement 17% du capital de la FDJ aux particuliers, c'est-à-dire pour 600 millions d'euros. On en est presque au double ce soir. Alors tout n'est pas encore joué puisque certains peuvent encore se désister car pour le moment il s'agit de réservation d'actions. Tout cela sera bouclé mardi soir. En tout cas, le ministre de l'économie a prévenu que les petits souscripteurs, c'est-à-dire les particuliers qui ont réservé pour moins de 5000 euros, seront servis en priorité car ce sont eux, dit-il, qui ont fait l'effort le plus important. Pour ceux qui ont réservé pour plus de 5000 euros d'actions, ils n'obtiendront qu'une partie de leur demande, sauf si le gouvernement décide d'ouvrir une plus grande partie du capital aux particuliers.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Toujours près de 70 000 foyers privés d'électricité ce soir en Rhône-Alpes après les chutes de neige de jeudi. Difficile encore pour Enedis de dire quand la totalité des foyers vont retrouver le courant. Côté trafic SNCF, reprise aujourd'hui de la liaison TER sur la ligne Valence-Gap. Trafic interrompu sur la ligne Lyon-Grenoble jusqu'à demain et sur Valence-Grenoble jusqu'à mercredi.
Oyez, oyez, grimpeurs de tous les pays. L'escalade, sachez-le, sera discipline olympique, hein. Oui, à Tokyo en 2020. Il faut dire que ce sport compte pas mal d'adeptes.
Oui, d'où un salon tout le week-end à Lyon, parce que Wendy, l'escalade, eh bien, ce n'est pas réservé qu'à des initiés. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'y mette, comme a pu constater Jean-Luc Boujon.
Allez, repose tes pieds sur le mur. Comme ça. Voilà, très bien.
La salle Climb Up, 2800 mètres carrés de surface grimpable à 2 pas du centre de Lyon. On est en plein après-midi. Et pourtant, la salle est pleine. En 5 ans, le nombre d'abonnés ici a été multiplié par 2. Et rien que l'an dernier, c'était plus 20%. Parmi les nouveaux adeptes, Hélène, 35 ans, elle n'en est qu'à sa troisième séance, mais elle est déjà accro.
C'est très chouette. Ça aide à travailler sur pas mal d'aspects, autant de sa personnalité qu'au niveau physique, avec des muscles qu'on se découvre petit à petit. Aujourd'hui, c'est fait pour monsieur et madame tout le monde. Au niveau du prix de l'équipement, c'est accessible à tout le monde, je pense.
Et effectivement, l'engouement pour ce sport ne se dément pas. Rien que l'an prochain, la société Climb Up va ouvrir une dizaine de nouvelles salles en France. Et le fait que l'escalade devienne discipline olympique pour la première fois l'an prochain donne un nouveau coup de boost, explique François Petit, champion du monde 97 et patron fondateur de Climb Up.
Depuis deux ans, on voit un effet waouh sur l'activité. Beaucoup de gens qui viennent tester, ils sont vite fidélisés à notre activité. Nous, on a 47% de femmes chez nous. Maintenant, il y a des enfants à partir de 3-4 ans qui sont chez nous. On a vraiment des murs d'escalade adaptés aux enfants. Donc tout le monde s'y met.
Voilà, l'escalade qui est également devenu le deuxième sport le plus pratiqué à l'école derrière le foot. Une progression spectaculaire rendue possible par la multiplication des équipements en ville ces dernières années. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Bien voilà, l'escalade à Tokyo en 2020 et on se met aussi au hip-hop, là ce sera pour Paris 2024. Enfin, on verra si c'est vraiment retenu.
Merci Fabienne Lemoine, le week-end prochain pour vous informer sur Europe 1. Merci.
Bonne fin de week-end à l'écoute d'Europe 1, il est 18h10.
Bon, on n'a pas fini avec le gris, Valérie Darmon. Le temps reste vraiment maussade demain, Valérie.
Et oui, tout à fait, le ciel restera ce lundi encore bien encombré. Il faut faire attention au lever du jour si vous circulez dans l'Est. Et sur le Grand Est, il va neiger, toujours à très basse altitude, jusqu'en plaine, notamment en Lorraine et sur les Ardennes. Les intensités sont faibles et éparses, mais la neige tient au sol dès les premiers reliefs. Sur le Nord, il pleut encore, les averses sont fréquentes sur les Hauts-de-France, accompagnées d'un vent de nord soutenu. Sur la chaîne pyrénéenne, il neige encore un petit peu demain matin à partir de 700 mètres et les conditions restent également agité sur la Corse avec des averses parfois marquées et orageuses. Et vous connaissez davantage d'éclaircies sur le Languedoc et sur PACA, malgré tout de même là aussi des débordements nuageux. Ailleurs, sur une grande partie centre de la France, une fois dissipées les brumes et les brouillards du matin, le temps est plus calme. Le ciel est toujours un petit peu chargé, mais vous avez droit à quelques vagues éclaircies, un petit peu comme aujourd'hui. Les minimales oscilleront entre 0 et 5 degrés en général sur la France, avec des gelées sur tous les massifs. Et les maximales vont plafonner entre 3 et 7 sur l'Est, 7 à 11 en général et 11 à 15 près de la Grande Bleue.
Merci Valérie Darmon. On refait un point, bien sûr, à 18h30. À suivre, une marche blanche en Alsace.
Absolument, 131e femme tuée par son compagnon. Il s'agit de Sylvia, l'horreur des violences et des meurtres conjugaux. Cette chaîne pénale qui n'est pas satisfaisante, dit la ministre de la Justice ce matin. Et bien juste après la pause, une avocate nous répond sur Europe 1.
Il est 18h14 et vous écoutez le Grand Journal du soir sur Europe 1. Ce soir, justement, pour honorer la mémoire de ces 136 femmes mortes sous les coups de leur conjoint depuis le début de l'année, Wendy Bouchard, vous accueillez une femme de loi.
Absolument. Bonsoir Emmanuel Rivier.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Vous êtes madame avocate au barreau de Paris, spécialiste des violences conjugales. On vient d'entendre dans le journal, par la voix de Marion Gauthier, ces nouveaux chiffres qui nous ont fait d'ailleurs sursauter toute la journée, issus d'un rapport de mission sur les homicides conjugaux. Je vais commencer par celui-ci. Dans 40% des féminicides, des homicides, la victime avait déjà signalé ses violences aux forces de l'ordre, sans pour avoir autant porté plainte. Il s'agissait parfois de main courante. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, maître Olivier?
Si vous permettez, je vais commencer par une remarque d'ordre général.
Oui.
Ce rapport parle d'homicides conjugaux, bon, c'est normal, il est écrit par des juristes, mais à aucun moment je n'entends Nicole Belloubet dans son interview au JDD prononcer le terme de féminicide, alors que dans le rapport on lit qu'il y a 85% des auteurs qui sont des hommes et 83% des victimes qui sont des femmes. Je pense qu'en politique, il faut appeler un chat quand on veut faire bouger les choses.
Oui, contrairement à ce qu'elle dit, vous militez pour l'inscription du terme précisément dans la loi aujourd'hui, féminicide.
Pas nécessairement, non, mais politiquement, ce terme est très important parce que sinon, on ne comprend pas qu'on est en fait dans un système d'inégalité femmes-hommes et les violences, c'est le continuum et c'est à ça qu'il faut s'attaquer d'abord.
Très bien, merci pour cette remarque d'abord. Je vous renvoie sur ce chiffre des 40%, donc on va dire de féminicides. La victime avait déjà signalé ses violences aux forces de l'ordre. Il y a un défaut de traitement judiciaire pour en arriver là?
Alors, il y a en fait, ça part avant le traitement judiciaire. Je pense que le premier problème, d'après ce que j'ai pu constater, c'est l'enquête.
Mmh.
C'est-à-dire que quand les plaintes sont prises, ce qui est rarement, enfin, ce qui est loin d'être toujours le cas, hein, d'après mes propres statistiques, c'est une fois sur deux, en fait, hein, qu'il y a un refus de plainte. Quand les plaintes sont prises, les enquêtes ne sont pas bien menées. Et là, je ne mets pas du tout en cause la compétence et le dévouement des forces de police. Simplement, ils sont en nombre tout à fait insuffisant et ils ne sont pas assez formés. Donc, les enquêtes ne sont pas assez complètes. Donc, c'est ce qui fait qu'on aboutit à des classements sans suite ou à des sous-qualifications. Ensuite, quand ça arrive en justice, oui. Il y a un problème de preuve, il y a un problème de formation des magistrats, il y a un problème d'écoute de la victime, et là aussi, il y a un problème de formation et de sous-effectif.
80% des plaintes transmises au parquet classées sans suite, ça veut dire aussi que les preuves parfois sont insuffisantes et que la loi peut-être doit évoluer dans cet accompagnement des victimes, pour vous, Maître Rivière ?
Alors, avant de faire évoluer la loi, il faudrait
déjà appliquer l'actuel.
Déjà appliquer l'actuel, former les professionnels et donner les moyens. Le problème, c'est que les violences conjugales se passent le plus souvent dans un huis clos. Mmh. Et dans ce huis clos, il n'y a pas de témoins. Et quand il y a des témoins, les auteurs, qui sont souvent des hommes assez intelligents et assez fins, donnent un tout autre visage. Donc, c'est par un faisceau d'indices qu'on va pouvoir démontrer l'existence des violences. Et donc, ça nécessite des enquêtes minutieuses, longues, comme celle qui a été menée pour Adèle Haenel, par exemple.
Oui, expliquez-nous. Adèle Haenel, c'est à peu près un peu moins d'un an d'enquête, mais une enquête qui aboutit.
Sept mois
d'enquête, voilà. Une enquête qui aboutit à faire toute la vérité. Je voudrais vous citer un exemple qu'avance Nicole Belloubet dans le JDD aujourd'hui, ce qui se fait à l'hôpital de Dax. Les médecins qui amènent les victimes à verbaliser qu'ils ne les laissent pas repartir sans qu'une association ne les accompagne. Est-ce que c'est un modèle d'abord à développer, Maître Emmanuel Rivière, développer aussi, pourquoi pas, la possibilité pour une femme de porter plainte dans l'enceinte de l'hôpital ?
Alors, le modèle de Dax, oui, il est tout à fait à développer, même si là j'émets une grosse réserve sur cette phrase de Nicole Belloubet, les victimes avouent rarement. Bon, les victimes ne sont jamais coupables, donc elles n'ont rien à avouer, mais le silence tue. Et la première chose pour pouvoir prévenir et remédier aux violences conjugales, c'est effectivement de permettre aux victimes de briser le silence. Et pour ça, il faut poser la question et il faut un personnel qui soit formé pour savoir, quand la réponse est oui, comment se comporter et orienter vers un réseau. Et ce qui se passe à Dax, si j'ai bien compris, c'est que les personnes qui sont détectées comme victimes de violences conjugales sont systématiquement orientées vers des associations d'accompagnement aux victimes. Et ça, oui, c'est une très bonne chose. Il faudrait que ça soit généralisé et pas seulement dans les hôpitaux, en fait, parce qu'il faudrait que partout dans sa vie, à chaque moment de sa vie, la question soit posée et que le jour où elle est prête à répondre et à briser le silence qui fait partie du système de la violence, il y a quelqu'un pour l'écouter, l'orienter et l'accompagner. C'est vraiment le premier pas.
On parlait des médecins à l'instant, Emmanuel Rivière. Le rapport évoque la rupture du secret médical. La ministre de la Justice, il semble désormais favorable. Si c'est une possibilité offerte d'un dialogue, j'allais dire volontaire de la part de la victime, vous y êtes aussi favorable ?
Si c'est volontaire de la part de la victime, bien évidemment. Par contre, ce n'est pas ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu, c'est y compris sans l'avis de la victime. Et ça me semble problématique parce que le médecin, c'est quelqu'un de confiance. Et est-ce que la victime va oser se confier à son médecin si elle sait qu'à tout moment il peut signaler, alors que dans un premier temps, la plupart des victimes sont absolument terrorisées par l'idée de porter plainte pour tout un tas de raisons. Donc, je ne suis pas favorable à ce que le médecin puisse signaler sans l'avis de la victime, même si le sujet est compliqué. Le sujet est compliqué. Je pense que sur ce terrain-là, ce qu'il faudrait développer, c'est plutôt que les médecins attestent, quand on leur demande, de ce que la victime leur a confié, parfois depuis des années. Parce que ça fait partie du faisceau d'indices.
Oui, et or, certains par éthique ne disent rien face à une réalité qui est criante. Et vous avez plusieurs cas.
D'attester de ce qui a été livré dans le cabinet médical en se retranchant derrière le secret médical et des directives dont je n'ai jamais eu connaissance, mais de l'ordre des médecins. Et ça, ça devrait être brisé. De même que beaucoup de personnel enseignant, parce que c'est les directives qui leur ont été données, refusent d'attester de ce qu'on peut leur dire les enfants, qui sont malheureusement témoins et exposés aux violences conjugales, refusent d'attester de ce qu'ils ont pu constater par eux-mêmes, parce que c'est le devoir de réserve.
On avance pas à pas et j'interrogerai sur les mesures d'éloignement, notamment parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, Emmanuel Rivière, à 19h30. L'ancienne ministre en charge de ce dossier, en particulier Laurence Rossignol, qui est aujourd'hui sénatrice de l'Oise. Merci beaucoup, Emmanuel Rivière.
Merci à vous.
Spécialiste des violences conjugales. Merci.
Il est 18h21 et le grand journal du soir se poursuit avec les sports, Wendy.
Absolument, dans un instant, avant un débat de société sur les maires et une autre alarme aujourd'hui, les maires face à l'insécurité grandissante. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Voici toute l'actualité des sports avec Axel May. Bonsoir Axel.
Bonsoir, et à la une, France-Albanie, c'est du football. La France, déjà qualifiée pour l'Euro, veut finir première de son groupe. En rugby, les champions d'Europe en titre, les Saracens, se jouaient cet après-midi sur la pelouse du Racing 92 et victoire 30 à 10 du Racing. Et puis le retour gagnant de Martin Fourcade après une saison écoulée très décevante pour la star mondiale du biathlon.
Le coup de ce soir, c'est donc la France qui joue son dernier match de qualification européenne en Albanie.
Les Bleus sont certes déjà qualifiés pour le championnat d'Europe l'an prochain, mais ils veulent assurer la première place de leur poule aux dépens de la Turquie. Alors pas question de prendre à la légère l'adversaire du soir, surtout que cette équipe albanaise aura à cœur de bien jouer face aux champions du monde dans son stade tout neuf de Tirana. Il va être inauguré à l'occasion de ce match. Écoutez ce qu'en pense le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.
Forcément, le fait de jouer la France avec en plus le fait d'inaugurer le stade, donc avec tout ce que représente l'identification nationale, cette ferveur, cette passion, on aura un vrai match avec de l'engagement. Il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau, bien évidemment.
Didier Deschamps au micro, l'un des envoyés spéciaux d'Europe en Albanie, Cyril Delamorinerie, coup d'envoi à 20h45 et dès 20h, soirée football autour de Lionel Rousseau.
Bonsoir Lionel.
Bonsoir Wendy.
Alors il y a un cas qui va nous intéresser ce soir, qui est un cas de société, presque un cas politique, le cas Benzema.
Absolument, c'est un cas récurrent. Il n'est pas appelé depuis de longs mois par Didier Deschamps en équipe de France et ces derniers jours, le président Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a dit que c'était terminé, Deschamps, que Benzema ne reviendrait pas en équipe de France. Benzema a répondu immédiatement sur ses réseaux sociaux et notamment sur Twitter.
Ça a fait flamber Twitter.
En disant tout simplement que c'est lui qui déciderait de sa retraite internationale. Plus de 60 000 retweets, plus de 160 000 likes pour le message de Benzema. Et en effet, c'est devenu un débat de société car on va dire qu'il y a une certaine partie de la France qui est pro-Benzema, issue notamment de l'immigration, il faut le dire, et on en parlera ce soir dans nos débats, qui ne comprennent pas pourquoi il est banni alors qu'il s'agit du meilleur footballeur français actuel. Pourquoi s'en priver ? Deschamps, lui, s'en défend, sans donner des excuses véritablement officielles. On est plus dans le domaine politique que dans le domaine sportif, dans ce débat véritablement de société.
Une France fracturée du foot, notamment à partir de 20h sur Europe 1.
Et puis il a fallu attendre la dernière journée de qualification, mais les Portugais, champions d'Europe en titre, iront bien défendre leur titre l'an prochain. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont battu 2-0 le Luxembourg tout à l'heure. Ronaldo a marqué le second but juste avant le coup de sifflet final, son 99e but sous le maillot portugais.
On parle rugby maintenant avec le premier week-end de Coupe d'Europe de la saison.
Avec le Racing 92 qui vient de s'imposer à la Paris la Défense Arena, les champions d'Europe sortant, les Saracens, sont perdus. Le club anglais jouait sans la majorité de ses internationaux, finaliste un malheureux de la dernière Coupe du Monde. Et Simon Rubin, cela a visiblement fait les affaires du Racing.
Ah oui, c'est ce qui a fait toute la différence, hein, parce que d'un côté on avait des Racingmen qui ont eux récupéré les mondialistes français il y a déjà quelques jours et quelques semaines et qui étaient frais, qui étaient physiquement impressionnants, et en face des Saracens qui n'ont jamais joué, qui n'ont jamais été dans le rythme. Le Racing a passé son temps dans la moitié de terrain adverse et l'emporte finalement donc 30 à 10 avec 4 essais, notamment un essai merveilleux de Virimi Vakatawa qu'on avait vu pendant la Coupe du Monde et qui a été absolument partout. C'est un excellent début de compétition et de Coupe d'Europe, hein, pour le Racing, qui s'installe en tête de son groupe avant la semaine prochaine un déplacement périlleux du côté du Munster.
Voilà Simon Rubin, entre résultats de cette première journée de Coupe d'Europe, Montpellier a chuté sur la pelouse irlandaise du Connacht, défaite 20 à 23, défaite aussi de Lyon à Northampton, défaite 14 à 25 pour le leader du championnat de France.
Et puis un retour gagnant Axel May, celui du sportif français le plus titré des Jeux Olympiques.
Martin Fourcade a gagné cet après-midi la mass start de pré-saison de Souchenor. Traduction pour les non-initiés, le biathlète a gagné l'épreuve dite de départ en masse, disputée en Norvège et qui permet de se roder avant le lancement officiel de la saison de Coupe du Monde.
C'est beaucoup plus clair comme ça.
Après avoir connu sa pire saison depuis une décennie, Martin Fourcade a, semble-t-il, retrouvé le sourire et l'envie de gagner.
C'est une fierté déjà, avant que l'hiver commence, d'avoir gardé le cap, d'avoir su encaisser les coups l'an dernier quand c'était difficile, d'avoir su courber de dos. Je crois que ça fait aussi partie d'une carrière de haut niveau, de m'être entraîné dans mon coin cet été sans trop me montrer pour aujourd'hui revenir dans le match pour peser un peu sur l'hiver. Donc très heureux de ça.
Et la Coupe du monde de biathlon commencera à la fin du mois à Östersund en Suède. Une dernière information tennis pour vous dire que les Français Pierre Gerber et Nicolas Mahut ont gagné la finale du Masters en double à Londres, 6-3, 6-4 face à une paire sud-africaine.
C'était le journal d'espoir, à tout à l'heure, 19h10, Axel May.
Et dans un instant, le rappel de l'info et puis on va en entendre parler.
Le 102e congrès des maires de France qui commence demain à Paris.
18h31, le grand journal du soir, la suite, Wendy Bouchard.
Et voici l'essentiel de l'actualité si vous nous rejoignez sur Europe 1. Bonsoir Sophie Dussault.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Ce drame en Isère, un couple sans électricité est mort chez lui, intoxiqué au monoxyde de carbone à cause d'un groupe électrogène. Trois jours après les importantes chutes de neige, 70 000 foyers n'ont toujours pas le courant en Rhône-Alpes. La garde des Sceaux reconnaît un problème dans le système pénal selon un rapport. Dans 65% des cas d'homicide et de violence conjugale, la justice où la police avait été saisie. Ce matin, une marche blanche s'est déroulée en Alsace à Oberhofen-sur-Moder. 300 personnes ont salué la mémoire de Sylvia, tuée à coups de couteau par son mari alors que les gendarmes avaient été prévenus. Les Gilets jaunes mobilisés aujourd'hui avec des actions de petits groupes comme aux Galeries Lafayette à Paris pour protester contre la société de consommation. Ils sont une cinquantaine à avoir investi les lieux. Le magasin a dû fermer ses portes. Dernière ligne droite pour la Française des Jeux avant son entrée en bourse jeudi. Et c'est déjà un succès populaire selon Bercy. Plus d'un milliard d'euros d'actions ont déjà été souscrits par les particuliers.
Merci Sophie. Voici la météo. Avec un temps calme, vraiment gris demain, cela dit Valérie Darmont.
Effectivement, pluie et neige à prévoir encore par Météo France au nord de la Seine. Donc prudence, la limite pluie-neige pouvant s'abaisser aux alentours de 300 mètres ce lundi matin, notamment dans l'Est et dans le Sud-Est. À surveiller cette fois les remontées pluvio-instables entre la Corse et la région PACA. Sur le reste de la France, c'est un temps plus calme et très nuageux qui va dominer, avec un risque d'averse plus fréquent, toujours près de la Manche et au sud de la Garonne. Les températures vont s'échelonner entre moins 3 et 0 du Massif central aux Alpes et au Jura. Elles seront comprises entre 1 et 5 ailleurs, maximales entre 5 degrés à l'est du Rhône et de la Saône, à 9 près de l'Atlantique, jusqu'à 13 près de la Méditerranée. Ce sont des valeurs inférieures de 3 à 4 degrés au normal de saison et toujours dignes d'une mi-janvier. Elles remonteront à partir de mercredi.
Merci Valérie Darmont. Et maintenant, Wendy Bouchard, on va en entendre parler sur Europe 1.
On va en entendre parler en France et dans le monde. L'actualité qui parfois se programme. Bonsoir Naïma Benchemane.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Ça commence demain lundi à Dakar, au Sénégal.
Le Premier ministre Édouard Philippe, accompagné de la ministre des Armées Florence Parly, ouvrira avec Macky Sall, le président sénégalais, le forum sur la paix en Afrique.
Le thème de cette sixième édition alors ?
Paix et sécurité. Une trentaine de chefs d'État mettront au cœur des discussions l'importance de la coordination des forces armées dans la lutte contre le terrorisme.
Mardi, au Sénat, sera à nouveau examiné le projet de budget de la Sécurité sociale pour l'année prochaine.
Jeudi dernier, le Sénat, à majorité de droite, avait écourté brutalement l'examen du texte, puis l'avait complètement rejeté par 281 voix contre, 0 pour et 60 abstentions afin de protester contre le mépris d'Emmanuel Macron après ses annonces sur l'hôpital.
Mmh, mercredi, vous nous proposez une sortie ciné pour voir quoi ?
Pour voir Les Misérables, Wendy, de Ladiji Lee, un film coup de poing comme l'avait été en son temps La haine de Mathieu Kassovitz. C'est un film qui lui aussi casse les clichés sur les banlieues. On y suit l'arrivée et l'intégration d'un jeune policier au sein d'une BAC aux méthodes parfois un peu douteuses dans un quartier du 93 en proie à des tensions et une violence souterraine quotidienne sans limite.
C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo sur vous.
C'est quoi votre problème à vous ? C'est quoi votre putain de problème ?
C'est moi la loi !
Donc t'es en train de m'expliquer quoi là ? C'est un accident ? C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.
Tu vas trop loin là !
Ça a l'air fort, hein ?
Ouais, c'est un film humaniste et très politique, Wendy, qui dénonce un système dont tout le monde finit par être victime, habitant comme policier, et il a reçu le prix du jury au dernier festival de Cannes.
On va en entendre parler, ce sera jeudi, le Women's Forum for the Economy and Society, ça se passera à Paris, forum économique consacré aux femmes.
Et ça sera la 15e édition de ce Davos des femmes, un forum qui compte parmi les 5 les plus influents au monde. Mmh. Et c'est l'actrice franco-britannique Christine Scott Thomas qui en sera la présidente d'honneur parce qu'elle incarne la modernité et l'élégance. Et elle s'est exprimée à ce sujet il y a quelques jours en disant « C'est une occasion unique de discuter et d'explorer les différentes façons dont nous pouvons améliorer la vie des femmes partout dans le monde. »
Et il y a beaucoup à faire vendredi. Et la sortie du nouvel album de Coldplay, Naïma.
Les Britanniques sortiront Everyday Life, leur 8e album solo. Un double album d'ailleurs, Wendy, avec deux parties au titre tout en poésie, Sunrise et Sunset. Donc littéralement, Wendy, le lever et le coucher de soleil. 16 nouvelles chansons, une immense tournée en perspective. Et d'ailleurs, Wendy, ils se sont même, pour l'occasion, offert une collaboration avec Stromae.
Et c'est bien parce que l'artiste belge fait plutôt rare ces derniers temps.
Et je vous propose de nous quitter en découvrant le premier extrait qui porte le nom de ce double album, Everyday Life. Everyone hurts, everyone cries.
Everyone Naïma Benchemann, merci, et votre agenda de la semaine sur Europe 1.
18h36, on va en entendre parler l'interview Wendy Bouchard.
Avec demain l'ouverture du 102e congrès des maires de France et des présidents d'intercommunalités à Paris, en présence pour le discours d'ouverture mardi d'Emmanuel Macron qui était absent l'an passé. Bonsoir Franck Leroy.
Bonsoir.
Vous êtes maire d'Hiver-Droite d'Épernay depuis 20 ans, président des maires de la Marne. Alors qu'un maire sur deux ne se représentera pas, on reste dans ces statistiques en mars prochain, et que dans certaines communes, la construction des listes va relever du casse-tête, êtes-vous déterminé, vous, à repartir pour un tour? Et si oui, pourquoi, Franck Leroy?
Alors, pour tout vous dire, je ne me suis pas encore prononcé sur la question et je le ferai qu'au mois de décembre. Ce que je peux vous dire, c'est que je constate une certaine évolution dans les choses. Effectivement, il y avait un an, on était dans une situation assez complexe où bon nombre de maires avaient le sentiment d'abord d'être accablés d'un certain nombre de difficultés, des capacités financières en baisse, des normes et des exigences de l'État toujours croissantes et une forme de mépris que les élus ressentaient de la part du gouvernement ou du chef de l'État avec un certain nombre de maladresses à la clé. Le grand débat a changé un petit peu le cours des choses. À la suite de ce grand débat, nous avons eu un projet de loi qui est actuellement en discussion qui s'appelle « Engagement et proximité » qui vise à remédier à toute une série de petits irritants qui découragent les maires, qui les mettent en colère parfois, à juste titre. Je pense notamment aux maires ruraux qui sont, il faut le comprendre, extrêmement seuls dans leurs fonctions.
Oui, vous parlez d'irritants, Franck Leroy. Il y a quand même cet appel, aujourd'hui même, la publication d'une tribune, appel des maires et des associations d'élus pour vivre en paix dans nos communes, qui mettent en avant la dégradation du vivre ensemble. Cette tension sociale que vous constatez peut-être vous-même dans la Marne à Épernay, équipements publics vandalisés, autobus, rames de tramway, caillasses, assez. Un état de fait qui s'installe, disent-ils, plus profondément chaque semaine. Et ils constatent que les effectifs de police et de gendarmerie déployés sur le territoire sont insuffisants aujourd'hui. Ils demandent aussi à l'État, peut-être vous, Franck Leroy, d'assumer les prérogatives de cette sécurité sur le terrain. Vous relayez ces inquiétudes et cet appel?
Oui, en partie avec cette difficulté que tous les faits qu'on subit ne sont pas forcément des faits que l'on peut qualifier pénalement. On n'a jamais vu autant de dépôts sauvages, de décharges sauvages à droite à gauche. Il faut se souvenir que c'est ce qui a causé la mort d'un de nos collègues dans le Var cet été.
À Signes, absolument.
Hein, il a tenté d'éviter ce genre de choses et il a été percuté par le véhicule. On ne sait pas si c'est volontaire ou involontaire. Quoi qu'il en soit, il est décédé. Il y a aussi beaucoup d'élus qui sont aujourd'hui confrontés à des gens qui sont plus forts qu'eux dans leur village, qui, pardonnez-moi l'expression, gueulent plus fort qu'eux, oui. Qui les intimident, qui les frappent parfois. Et bon nombre d'élus, et j'en connais, ont été menacés physiquement, ont été frappés. Et il n'y a pas eu de réponse judiciaire. Parce que d'abord, un, ils n'ont pas osé porter plainte parfois, il faut le reconnaître, ce n'est pas évident. Quand on croise le même individu dans le village tous les jours, est-ce que vous allez déposer plainte, sachant que le type peut revenir chez vous à tout moment?
Ces maires-là, vous comprenez qu'ils lâchent prise, Franck Leroy, pour les prochaines échéances?
Bien sûr, et parfois c'est leur famille qui leur demande de lâcher prise. Parce que quand des élus montent seuls au front, face par exemple à des gens du voyage, le maire prend un risque en y allant tout seul. Dans la plupart des villages de France, il n'y a pas un gendarme. Il n'y a pas un policier, il n'y a pas un agent de l'État, c'est le maire qui est seul. Et quand on vit des situations comme celle-ci, je peux vous garantir qu'il faut avoir un certain courage, parfois même une dose d'inconscience pour y aller, mais on se trouve de plus en plus confronté à des situations complexes. Donc cette vie-là, elle n'est pas toujours enviable, même si c'est un mandat absolument passionnant parce qu'on touche au cœur des problèmes de la société.
Donc vous réservez votre choix à vos administrés dans quelques semaines, Franck Leroy. Vous qui avez passé 8 heures en compagnie du chef de l'État, c'était jeudi dans la Marne, il a choisi Emmanuel Macron, votre commune, votre département, pour voir concrètement sur place comment les réformes qu'il a souhaitées, les réformes du quotidien, s'appliquaient. On parle de rénovation thermique, de logement, de l'ouverture des maisons de santé, du nombre d'apprentis, de la scolarisation des enfants handicapés. Il a tiré là manifestement les conclusions aussi de ce que reprochait le mouvement des Gilets jaunes au chef de l'État, c'est-à-dire cette distance par rapport aux préoccupations de terrain. Au-delà de la com, vous qui avez passé du temps avec lui, son action est sincère pour vous, pour le coup, dans cette volonté de retisser avec les élus?
Oui, si j'entends tous les élus du conseil municipal, il y avait toutes les sensibilités, je crois que tout le monde a été touché, y compris les élus d'extrême droite, par le geste du président qui est venu nous écouter, J'imagine évidemment que cette séquence s'inscrivait dans la perspective du congrès des maires de la semaine prochaine. Ça me semble assez évident. Il y avait peut-être un peu de communication derrière. Ce n'est pas illégitime. Il ne serait pas le premier à l'avoir fait. Mais il y avait quand même, dans ce parcours urbain qu'on a fait ensemble, à la fois des problèmes économiques qui ont pu être évoqués, mais également tous les problèmes des collectivités locales, ce qui était assez intéressant parce qu'il est resté 8 heures à Épernay, ce qui n'était pas programmé au départ.
Oui.
Preuve que, quelque part, il y trouvait aussi un intérêt dans ce contact direct avec des habitants.
Collectivités locales, problème aussi des intercommunalités qui parfois écrasent les petites communes et les maires qui sont à leur tête. Est-ce que vous avez évoqué avec le chef de l'État la possibilité d'un statut de l'élu? On en a beaucoup parlé, un statut susceptible de protéger les maires. Et je pense à une de ces hypothèses, de ces possibilités, une formation pour la reconversion des élus qui seraient battus aux élections ou qui feraient le choix de ne pas se représenter, une sorte de validation des acquis de l'expérience pour qu'ils n'aient, entre guillemets, pas perdu leur mandat, ce qui les propulserait vers un autre avenir.
Bien sûr, on en a parlé avec lui et avec Sébastien Lecornu qui l'accompagnait. Mmh. Et c'est d'ailleurs l'un des sujets qui est au cœur du projet de loi Engagement et proximité. Par exemple, un élu qui est adjoint de l'urbanisme pendant 2 mandats.
Oui.
Pendant 12 ans, il s'occupe du problème d'urbanisme. Il a suivi des dizaines et des dizaines de dossiers. Et on ne lui reconnaît effectivement aucune compétence particulière, alors que partout ailleurs, on considérait que la valorisation des acquis de l'expérience lui mériterait de bénéficier d'une équivalence d'un titre universitaire, par exemple. Ça a été adopté au Sénat et c'est maintenant devant l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, l'idée est extrêmement intéressante et je suis persuadé qu'elle répond à l'attente d'un certain nombre d'élus. De même que la nécessité d'être protégé quand on est attaqué par quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, vous avez des maires qui ont été, par exemple, agressés, je reviens sur le sujet, et qui se trouvent face à un agresseur devant le tribunal, qui, lui, est un avocat, alors que le maire n'en a pas. Permettre aux élus des petites communes d'avoir un avocat via une protection juridique qui serait prise en charge par l'État, c'est une véritable avancée pour tous ces maires qui se sont retrouvés dans des situations d'intimidation, voire de violence, et qui, malheureusement, n'osent pas aller devant un tribunal de peur de se retrouver seul face à l'agresseur qui, lui, dispose de moyens juridiques supérieurs aux siens.
Bien, merci d'avoir avancé ces éléments concrets. C'est de tout cela, j'imagine, que vous allez parler aussi pendant 3 jours au Congrès des maires de France à Paris. On est vraiment dans votre quotidien aussi. Franck Leroy, vous qui êtes maire d'Hiver Droite d'Épernay depuis 20 ans maintenant et qui présidez l'association pour les maires de la Marne. Merci de votre présence ce soir dans le Grand Journal d'Europe.
Merci à vous.
Et bon congrès à vous.
Merci beaucoup, à bientôt.
À suivre, le journal de l'auto avec Pierre de Villeneau et des conseils pour bien conduire sur la neige. Il est 18h45, on vous retrouve Wendy Bouchard pour la suite du Grand Journal du soir.
Voici Tout roule, le magazine auto d'Europe 1, chaque dimanche soir avec vous. Bonsoir Pierre de Villeneau.
Bonsoir Wendy Bouchard, bonsoir à tous. À la une de Tout roule, la neige arrive. Est-ce que vous savez conduire sur la neige? Des petits conseils au début. L'essai de la semaine, la nouvelle BMW série 1. Et puis rencontre avec une route oubliée, ça se passe en pleine forêt de Bavière.
Voici pour commencer le dossier de la semaine avec cette neige qui s'est abattue sur la France, ce qui vous a donné l'idée de rappeler quelques petits conseils de conduite sur la neige et sur le verglas. Alors on vous écoute attentivement.
Alors la première des choses, c'est de garder les yeux sur la route. C'est comme à vélo, c'est comme à cheval, vous suivez la route, la voiture
regarde loin.
Vous suivra. Deuxième chose, rien de brusque, pas de coup de volant brusque, pas de coup de frein, pas d'accélérateur. Et puis anticiper, si je vois un camion là-bas au loin, eh ben, j'anticipe, je le double déjà avant. Pour avoir plus de sécurité, l'accélérateur c'est vraiment du bout des orteils, pareil pour le frein. Et puis 3 choses encore, passer la 3e dès 20 km/h pour plus d'adhérence.
D'accord.
Ça peut paraître inouï mais c'est comme ça. Utiliser le frein moteur en descente et puis rouler moins vite, 10 à 20 km/h en ville et 50 où que vous soyez ailleurs, même l'autoroute.
Merci pour la formation. Rattrapage, les news de la semaine Pierre.
Et Peugeot qui fait son retour en compétition 2022 pour le championnat du monde d'endurance, 2023 pour les 24 heures du Mans. Tesla finalement choisit Berlin pour son usine européenne. Il construira des batteries, la motorisation et les modèles 3 et Y.
On passe à l'essai de la semaine, c'est la nouvelle série 1 qui vous a intéressé cette semaine, donc chez BMW.
Capri, c'est fini.
Et qu'est-ce qu'on a entendu avant la sortie de cette série 1? C'est fini le 6 cylindres, c'est fini la propulsion, de quoi hérisser les BMistes historiques. D'accord, c'est fini, mais en attendant, elle est là, hein. On l'entend, cette BMW M135i avec son 4 cylindres transversal de litre 306 chevaux. Alors, il y en a pour tous les goûts, hein. Ça commence avec la 1 16D de 116 chevaux. Il faut savoir que BMW a voulu maximiser les coûts en rassemblant tout sur le châssis de la Mini, c'est vrai. Mais d'autre part, on a voulu rassurer les gens avec cette voiture qui est un peu plus une traction avant qu'une propulsion parce que les gens allaient chez Audi, chez Volkswagen pour être plus rassurés. En même temps, c'est une voiture qui a aujourd'hui beaucoup plus de place, 380 litres de coffre. C'est quand même beaucoup pour cette petite voiture et de la place également à l'intérieur.
Mais ça ne manque pas de sportivité, ça vous intéresse, ça, toujours.
Non, mais vous savez ce que signifie BMW? C'est Bayerische Motorenwerke. C'est des produits motoristes de Bavière. C'est ça le secret. Est-ce que vous vous souvenez de ma moto?
La grosse BMW.
Ouais, oui, exactement. Mmh. Et ben, les motards le savent. Le matin, la moto, c'est l'adrénaline. Et ben là, j'ai ressenti exactement la même chose avec cette BMW.
Vous parliez de la Bavière, on y reste, Pierre de Villeneuve, pour l'histoire de la semaine à la découverte d'une route oubliée, nous sommes en pleine forêt.
Diese Bauwerke sollten das Deutsche Reich vernetzen. Sie sind längst vergessene Autobahnen.
Voilà, l'autoroute oubliée, la Autobahn oubliée, la Strecke 46, dont la construction avait commencé en 1936 pour relier Hambourg au lac de Constance, un grand axe nord-sud qui traversait des lieux historiques. 4500 ouvriers travaillèrent jusqu'en 1939, ils construisirent des ponts, les premiers kilomètres d'asphalte, avant que l'armée d'Hitler dise que le projet finalement n'était pas stratégique. Le résultat, c'est ce mur au milieu d'une prairie qui aujourd'hui sert de mur d'escalade, un parcours de rando et de VTT qui doit être balisé pour l'an prochain, en tout cas cette Strecke 46 en Allemagne est devenue un véritable lieu touristique.
Merci pour ce tour roule de la semaine, Pierre de Villeneuve. On vous retrouve dimanche prochain et à la présentation du journal Europe Midi dès demain. Merci,
merci
Pierre.
Wendy.
Et dans un instant, sur Europe 1, on fredonne, Wendy.
Une chanson dans la tête, alors que Starmania lance un grand casting pour son retour sur scène. On va s'intéresser à tous ces artistes qui ont commencé comme ça, par les petites annonces. Fabien Le Cabret avec nous.
18h50, le rendez-vous musical et culturel de ce grand journal du soir, c'est Une chanson dans la tête, Wendy Bouchard.
Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Bienvenue avec cette question, qui pour succéder à Fabien Thibault ou à Morane dans la nouvelle version de Starmania?
Un jour vous verrez la serveuse automate s'en aller.
Que se passera-t-il en effet à Paris les 3, 4 et 6 décembre?
Eh oui, trois dates extrêmement importantes pour tous ceux qui veulent participer au prochain spectacle de Starmania qui se jouera à Paris à partir du 6 octobre 2020 à la scène musicale. Et le casting de la version 2020 se déroulera donc, comme vous l'avez dit Wendy, les 3, 4 et 6 décembre prochains.
Il y a déjà des petits candidats, j'imagine.
Il y en a 2220 qui sont déjà inscrits.
En quelques jours, bien.
En à peine deux jours, ouais. c'est pas mal. Donc il y aura bien sûr la présence de Luc Plamondon.
Dans le jury,
l'un des co-auteurs et compositeurs en tout cas du spectacle original que moi j'ai vu sur scène d'ailleurs en 1979. C'était au Palais des Congrès.
Oui.
Ça durait que 15 jours. Après il y a eu des prolongations.
Œuvre conjointe avec Michel Berger.
Complètement. Et puis il y aura aussi pendant ce casting, il y aura le metteur en scène Thomas Joly. Et puis bien sûr le dernier compagnon de France Gall, Brooke David.
Oui.
Et puis bien sûr Raphaël, le fils de France et de Michel Berger.
C'est intéressant, ça reste en famille. Hein.
Donc ça reste en famille, c'est plutôt bien. Et pour tous ceux, alors ils m'ont bien dit, parce que j'ai téléphoné, pas pour me mettre au casting, évidemment, je ne sais pas chanter.
On cherche chanteurs et chanteuses de haut niveau.
De haut niveau, très
hein.
haut niveau. Alors, dans la petite annonce, il précise bien qu'il ne cherche pas des chanteurs, mais surtout des personnages.
Ah.
Très important. Parce que tous savent très très bien chanter à partir du moment où on s'inscrit dans ce genre de casting.
Il faut être comédien.
C'est un peu ça. Alors on peut s'inscrire. Alors pour plus d'infos, faut se connecter sur casting@starmania-officiel.com.
Avant peut-être de devenir un artiste.
J'aurais voulu être un artiste.
Dites-nous, Fabien Lecoeuvre, il y en a beaucoup des artistes qui ont commencé leur carrière comme ça, en répondant par un casting, à des petites annonces du genre.
Évidemment, souvent, des petites annonces ont donné naissance à des très grandes carrières. Et je pense à Françoise Hardy, en 1962, la maman de Françoise, fidèle lectrice du quotidien François, a repéré un matin dans la rubrique « Les potins de la commère » de Carmen Tessier. C'était une annonce pour une audition. Et sachant que sa fille Françoise composait des chansons, elle l'incite à se présenter à une audition. La jeune fille se rend donc chez Pathé Marconi. Et pendant un quart d'heure, devant un directeur artistique, elle s'exécute, elle chante ses petites chansons. Elle n'est pas retenue, bien évidemment, parce qu'elle ressemblait trop à une autre fille à l'époque qui commençait une petite carrière, qui s'appelait la collégienne du Twist, Marie-Josée Neuville.
Oui.
Et donc, elle ne se décourage pas, même si elle n'est pas prise. Et c'est dans une autre petite annonce également, où les disques Vogue cherchaient une chanteuse pour succéder à Petula Clark. Et c'est là où elle sera prise et enregistrera le 25 avril 1962 son premier grand et vrai succès, Tous les garçons et les filles.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et
Ensuite, vous connaissez la carrière de Françoise Hardy. Voilà comme c'est beau.
Ça porte chance, ces petites annonces.
C'est magnifique. Alors, vous parliez de François. Bon, je ne sais pas qui serait l'équivalent aujourd'hui. C'est Internet. On va y venir. Il y a un jeune premier qui a fait ses débuts par petite annonce pour le cinéma.
Ben oui, c'est aussi une petite annonce repérée dans François par un de ses amis que le jeune Patrick Bruel va démarrer dans le cinéma. Un jeune réalisateur, pas encore très connu, Alexandre Arcadi, recherche pour son premier long métrage des jeunes garçons, mais à l'accent pied-noir. Et le 18 juin 1978, Patrick Bruel répond à cette annonce de casting. Quelques jours plus tard, il est convoqué à une audition. Il s'y rend, mais très décontracté, parce que dans le hall, il y a à peu près une centaine de garçons pieds noirs. Donc il n'est pas très... Il ne sait pas s'il va obtenir le destin.
Oui.
Et puis finalement, Patrick obtient le premier rôle, c'est-à-dire il joue le rôle de Paolo Narboni aux côtés de Roger Hanin et de Marthe Villalonga, bien sûr, dans Le coup de Sirocco, bien sûr. Le film est un immense succès dès la sortie. Et du jour au lendemain, il devient un jeune premier du cinéma. Ce qui lui permettra d'enregistrer 5 ans plus tard, lui aussi, un tout premier succès.
J'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana. J'étais bien mieux avant, câliné par maman tout le temps. Tout le temps.
C'était son rêve d'ailleurs à Bruel, la chanson d'abord.
Oui, bien sûr, parce qu'il avait vu un premier spectacle à l'Olympia, j'en ai souvent parlé avec lui. C'était Michel Sardou, il avait été le voir en février 75, il rêvait d'être chanteur. Bien des années plus tard, il le sera, bien sûr, et magnifiquement en tout cas.
Très belle anecdote sur Bruel. Je vais vous faire écouter un autre titre. Vous allez nous dire ce qui se cache derrière et nous va nous raconter l'histoire ensuite. Je suis passée à côté de cette chanson à l'époque.
Énorme succès, vendu à plus de 500 000 exemplaires, disque d'or. Vous entendez bien sûr Sophie Marceau, accompagnée de François Valéry. Il lui avait proposé et demandé, après l'immense succès de la Boom, de chanter justement en duo avec lui. Elle a accepté. C'était déjà une valeur montante du cinéma, parce qu'elle aussi a commencé par une petite annonce.
Or une.
Et c'est aussi une petite annonce dans François, une de plus.
Dommage que le journal ait disparu, il a fait de si belles choses.
C'est finalement cette petite annonce de François qui va décider de la carrière de Sophie Marceau. Alors qu'elle cherchait un petit job d'été pour se faire de l'argent de poche, Sophie tombe sur une petite annonce diffusée dans ce journal. Et c'est une agence de mannequins juniors qui est à la recherche de nouveaux visages pour des publicités, tout simplement. La jeune femme accompagnée d'une amie décide de traverser le périphérique, habitant en région parisienne. Et puis elle se rend dans ce centre, dans le centre de la capitale, et puis finalement elle donne sa photo, etc. Et à ce moment-là, c'est là où tout bascule dans une carrière, et ça c'est formidable. Il y a Françoise Ménidré, qui est un agent et qui a l'habitude de chercher souvent des jeunes, des nouveaux visages pour les réalisateurs et producteurs de cinéma. Et elle tombe sur la photo de Sophie Marceau, elle l'a choisie, et aux dernières minutes, il remplace le rôle principal qui devait être tenu par une autre fille. Pour l'anecdote, Emmanuel Béart, Mathilde Amet et Christina Reali avaient passé le casting de La Boom aussi.
Ah, le même.
Et elles n'ont pas été retenues.
C'est
comme
pas
quoi,
beau, ça.
Finalement, ça peut arriver.
Bon, on boucle la boucle, juste pour vous dire qu'elle fut aussi arrivée par petite annonce. Isabelle Zaz, 2007.
Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur.
On termine là, Fabien Lecoeur.
Et voilà, Isabelle Geoffroy, plus connue sous le pseudonyme de Zaz, qui s'est fait connaître. Et aussi, grâce à une petite annonce, en mai 2007, elle tombe sur cette petite annonce sur Internet cette fois-ci. Et la substance de la petite annonce disait « Compositeur cherche voix cassée un peu rock ». Et semblant correspondre au profil recherché, la jeune chanteuse y répond. Et bien évidemment, elle passe les essais et elle est choisie par Kheireddin Soltani, qui était vraiment celui qui a composé, auteur-compositeur de la chanson.
Beau destin,
voilà.
Ces petites bouteilles à la mer fonctionnent bien. Merci Fabien Lecoeuf, c'était original. Belle thématique du jour. A tout de suite pour la deuxième partie du Grand Journal, 19h-20h. Le journal de Sophie Tussaud arrive et puis nous serons en duplex de Venise à 19h15.
Nous sommes avec Wendy Bouchard, c'est votre Grand Journal du soir.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 jusqu'à 20h. Voici le journal de 19h présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 19h.
On s'aide entre voisins, on tire des câbles pour avoir l'électricité, au moins pour le nécessaire. Il y a une très bonne solidarité. Le voisinage au top.
Le ras-le-bol de milliers d'habitants, toujours pas d'électricité pour 70 000 foyers en Rhône-Alpes et en Isère. Un couple est mort intoxiqué à cause d'un groupe électrogène.
Il y a une semaine, Sylvie a été tuée à coups de couteau par son mari. Sa mémoire a été saluée aujourd'hui en Alsace.
C'est dramatique. C'est un virus, ça fait peur, oui. Ça fait froid dans le dos. Oui.
La place d'Italie meurtrie au lendemain des violences en marge de la journée de mobilisation des Gilets jaunes et la consternation des Parisiens face aux dégradations.
C'est une honte, quoi.
ça fait mal quoi, de voir tout ça. Hein. J'ai presque les larmes aux yeux parce que c'est notre pauvre France, on va dire. Hein.
Et puis le succès populaire de la future introduction en bourse de la Française des Jeux, déjà 1 milliard de souscriptions. Merci d'être avec nous jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et d'abord ce drame en Isère, alors que des milliers de foyers n'ont toujours pas le courant. Un couple de septuagénaires est mort, intoxiqué au monoxyde de carbone alors qu'il se chauffait avec un groupe électrogène. Écoutez ce soir la réaction du maire Alain Pichat, le maire de Beauvoir de Marc sur Europe 1.
Bon, c'est dramatique. Ce sont des voisins proches, bien sûr, et puis on a passé toute notre enfance ensemble dans des fermes à proximité. Simplement, ils ont fait tourner un groupe électrogène dans le sous-sol de leur maison et puis ils habitaient au-dessus, quoi. Donc, apparemment, la lumière est revenue sur le coup de 10h30. M. Pernon est descendu pour arrêter le groupe électrogène. Donc, son épouse, ne le voyant pas revenir au bout d'un moment, elle est descendue les escaliers à sa suite, quoi. Et puis elle s'est retrouvée dans une nappe de CO, d'oxyde de carbone. Donc, je dirais, elle a basculé aussi, quoi.
Voilà pour la réaction ce soir d'Alain Pichat, le maire de Beauvoir de Marco. Micro de Jean-Gabriel Bourgeois, Sophie.
Oui, 3 jours après les importantes chutes de neige, 70 000 foyers sont toujours privés d'électricité en Rhône-Alpes, voire d'eau également. Pour beaucoup, ça va prendre du temps à être rétabli. La colère commence à gronder, comme à Glin, en Ardèche, où vous vous trouvez, Élise Dangean.
Oui, car dans ce petit village d'à peine 700 habitants, 240 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. Et pour couronner le tout, depuis ce matin, les riverains n'ont plus d'eau. En cause, les pompes du château d'eau qui fonctionnent normalement grâce à l'électricité. De quoi provoquer la colère d'Abel, 80 ans.
Je suis fâché contre Enedis qui ne prévoit pas ce genre de choses. Quand c'était EDF, c'était tout à fait différent. Quand il y avait une panne, les mecs de l'EDF, c'était 24 heures sur 24 qui bossaient. Là, c'est des sous-traitants, tout ça, alors ils s'en foutent.
Alors ici, beaucoup sont partis, notamment les parents d'enfants en bas âge. Et pour ceux qui restent, il a fallu trouver des solutions. Plusieurs habitants se sont procurés des groupes électrogènes. Pour les autres, eh bien, c'est l'entraide qui prime, raconte Patrick, commerçant de 55 ans.
Certaines parties du village ont été alimentées, parce qu'ils sont pas sur le même réseau que nous. Donc eux, ils ont l'électricité. Donc après, on s'aide entre voisins, on tire des câbles pour avoir l'électricité, au moins pour le nécessaire. Il y a une très bonne solidarité. On a cette chance-là, on a le voisinage au top.
Selon Enedis, le courant n'a pas pu être rétabli ici car le réseau a été fortement impacté, plus qu'ailleurs. Le fournisseur d'électricité promet un retour à la normale début de semaine sans donner plus de précisions.
Élise Dangean à Glin en Ardèche pour Europe 1. Des failles dans le traitement des violences conjugales. Selon un rapport rendu public par la ministre de la Justice, dans 65% des cas, la justice ou la police avait été saisie. Nicole Belloubet estime que la chaîne pénale n'est pas satisfaisante.
La semaine dernière en Alsace, une femme de 40 ans a été tuée à coups de couteau par son mari alors que les gendarmes avaient été appelés. Une marche a eu lieu ce matin à Oberhofen-sur-Moder, près de Strasbourg. 300 personnes ont salué la mémoire de Sylvie et Charlotte Bechler était présente pour Europe 1.
Les participants sont venus vêtus de rose, la couleur préférée de Sylvia. Ils ont marché une petite demi-heure de la mairie jusqu'à son domicile. En tête de cortège, sa fille Stella et le reste de sa famille. Derrière une banderole, justice sera faite. Devant la maison et dans un calme absolu, proches et anonymes ont déposé des roses et se sont recueillis. Jean connaissait bien la victime.
Je n'accepte pas ce qui s'est passé, quoi, en fait, de tuer, enlever une vie comme ça. Elle ne méritait pas, quoi.
Jean-Claude a présenté ses condoléances à la famille. C'est la deuxième fois qu'il vit ça. La commune avait déjà été le théâtre d'un féminicide en 2015.
C'est dramatique. C'est un virus. Ça fait peur, oui. Ça fait froid dans le dos, oui.
À l'arrière du cortège, il y a Patricia. Elle ne connaissait pas Sylvia, mais elle a connu, elle aussi, les mêmes violences conjugales. Elle s'est sentie concernée et se devait d'être là.
Elle m'a battue plusieurs fois. J'avais toujours honte. J'aimais mon mari et je ne voulais pas lui faire de la peine. Je suis à la place de cette fille, hein, parce que honnêtement, à un doigt, j'aurais été pareil. Hein.
Alicia a tenu à venir avec ses enfants pour qu'ils réalisent que les violences sur les femmes sont insupportables.
Il faut qu'ils comprennent que la femme, c'est pas un esclave ni un punching ball, quoi.
La famille de Sylvia n'a pas souhaité s'exprimer, mais elle est reconnaissante de cette mobilisation citoyenne. Les obsèques de la mère de famille auront lieu samedi prochain. Oberhofen-sur-Moder, Charlotte Bichler, Europe 1.
Et on reparlera de ces féminicides, des défaillances de la justice également à partir de 19h30 dans notre grand débrief en présence de l'une de nos invitées, Laurence Rossignol, ancienne ministre chargée du droit des femmes.
Les 19h05, la suite du journal sur Europe 1, Wendy Bouchard, Sophie Tussaud.
Au lendemain des violences dans la capitale, deuxième journée d'action des Gilets jaunes pour marquer le premier anniversaire de leur mouvement. Ils sont une cinquantaine à avoir envahi ce matin les Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris, une action brève pour dénoncer la société de consommation, mais qui a entraîné la fermeture du grand magasin jusqu'à demain matin.
Hier, le 13e arrondissement de Paris a été meurtri par ces violences et aujourd'hui, la place d'Italie, Sophie Echen, porte les stigmates de tous ces affrontements.
Oui, des débris de pierres, de barrières et des restes de poubelles et de palettes calcinées jonchent le sol. La stèle en hommage au maréchal Juin et aux soldats africains est vandalisée. Brigitte est venue constater les dégâts.
Je suis scandalisée, choquée. Qu'on s'en prenne à des symboles comme ça, puis qu'on s'en prenne à la police et à tous ces gens qui se sont battus, qui sont morts pour nous. Pourquoi mon père a fait la résistance? C'était pour éviter ça. J'espère qu'ils les rattraperont et qu'ils leur feront nettoyer tout ça.
Des bouquets de fleurs ont été déposés au pied de la statue du maréchal Juin à mon père, soldat du 22e bataillon de marche nord-africain, peut-on lire sur l'un d'eux. Daniel observe le monument saccagé avec beaucoup de rancœur.
Saccager toute notre histoire comme ça, c'est une honte, quoi. Et ça fait mal, quoi, de voir tout ça. Hein. J'ai presque les larmes aux yeux parce que c'est notre pauvre France, on va dire. Hein. Mais moi, ce que je crains surtout, c'est à partir du 5 décembre, ça risque d'être révolutionnaire, tout ce qui va se passer. Hein.
Quelques mètres plus loin, Patrice prend la scène en photo avec son portable, choqué qu'on s'en prenne à un tel symbole. Mais il essaie malgré tout de relativiser.
Il faut se calmer un petit peu sur la polémique. J'ai vu les images de ceux qui cassaient. Je suis persuadé qu'on leur aurait demandé 2 minutes de se calmer, de dire qui étaient ces maréchaux. Ils étaient incapables de les situer, non pas pour un manque d'intelligence, mais de l'ignorance. J'espère sincèrement que ça va se calmer. On va arriver à faire un mot que les Français connaissent pas, le mot unité.
Finalement, 3 agents municipaux évacuent la place pour la condamner. Par sécurité, m'a confié l'un d'eux. L'heure est maintenant au déblaiement et au nettoyage.
Merci Sophie Echen. Hier, 254 personnes ont été arrêtées en France au marge de la journée de mobilisation des Gilets jaunes, dont 173 à Paris, chiffre annoncé par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur qui a qualifié lors du grand rendez-vous ce matin sur Europe 1 les casseurs d'imbéciles, de brutes et de voyous.
La suite du journal dans un instant avec le succès populaire de la prochaine entrée en bourse de la Française des Jeux. Ne bougez pas.
19h09, la suite du journal Sophie Wendy Bouchard.
Et Bruno Le Maire évoque un succès populaire. Plus d'1 milliard d'euros d'actions ont été souscrits jusqu'à présent par les particuliers dans le cadre, Sophie, de l'opération de privatisation de la Française des Jeux.
Oui, la FDJ qui fera ses premiers pas en bourse jeudi. Et pour Didier Hameau de boursier.com, ce succès était prévisible.
C'est pas une grosse surprise, d'autant que le dossier a été vendu assez facilement parce que le business de la Française des Jeux, tout le monde connaît, tout le monde sait comment ça marche et c'est assez lisible. On voit bien le mécanisme, on voit aussi le fait que c'est pas très risqué au sens où le business est lisible, est visible, est prévisible. Et ça, c'est important dans le contexte un petit peu incertain des marchés. On a quand même une certaine logique d'anticipation dans ce placement qui va pas sans doute être mirifique, hein. On n'attend pas une explosion du cours, mais en tout cas, sur la durée, c'est un placement assez facile à anticiper sur les prochains mois et prochaines années. Et ça arrive au bon moment. C'est vrai que les Français ne savent plus trop où mettre leur argent, ceux qui ont un petit peu d'épargne se disent que bah, pourquoi pas tenter la Française des Jeux, puisque si c'est pour placer son argent pour avoir 0,5% ou 1%, bah, autant diversifier sur un dossier comme la Française des Jeux.
Didier Hameau de boursier.com au micro européen de Maud Descamps.
Dans l'actualité également, Édouard Philippe est au Sénégal pour 2 jours. Beaucoup de dossiers attendent le Premier ministre. Immigration, coopération économique et lutte contre le terrorisme.
Et cet après-midi, c'est un volet symbolique de ce voyage qui s'est joué. Le Premier ministre a rendu officiellement au Sénégal un sabre. Première concrétisation de la promesse d'Emmanuel Macron de rendre les œuvres d'art spoliées à ses anciennes colonies. Adrien Beck est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Dakar.
À 2 pas d'Édouard Philippe et de Macky Sall, le sabre et son fourreau déposés sur un coussin en velours rouge. Ici, l'objet est mythique, symbole de la lutte contre la colonisation française, mais ramené à Paris il y a 125 ans. Édouard Philippe le remet officiellement au président sénégalais.
Sa place est bel et bien ici, au cœur de l'ancien empire tout couleur, près des peuples qui le composaient. Il symbolise aussi, y compris dans son caractère guerrier, l'amitié, l'admiration réciproque qui unissent aujourd'hui nos peuples.
Au-delà, ce retour scelle aussi une nouvelle relation franco-sénégalaise, dite Aissata Tall Sall, députée et descendante d'Eladj Omar Tall.
Ce sable maintenant devient le symbole de relations post-coloniales plus qu'apaisées entre la France et le Sénégal.
Pour l'instant, le sabre n'est que prêté pour 5 ans. L'Assemblée nationale française devra encore voter une loi pour une restitution définitive. Dakar, Adrien Beck, Europe 1.
Europe 1, il est 19h12. Le temps de la semaine, on va faire le point avec vous Valérie Darmon. On vous écoute.
Eh bien, c'est une succession de perturbations qui nous attend du sud au nord, entraînant donc de nombreux passages pluvieux. Intempéries annoncées sur les régions méditerranéennes en milieu de semaine. Déjà demain, des averses de neige et de pluie se produisent au nord de la Seine. Dans le sud, de fortes averses se déclenchent de la Corse à la région PACA et près des Pyrénées, avec de la neige au-dessus de 1200 mètres. Mardi et mercredi, pluie sur les régions atlantiques, mais aussi près de la Méditerranée, où ces averses vont prendre un caractère orageux de plus en plus marqué. À partir de jeudi, la dépression se rapproche encore plus de la façade atlantique, en même temps qu'une autre dépression se creuse sur le golfe du Lion. Avec le redout attendu, la fonte de la neige en moyenne altitude et de fortes pluies en plaine, eh bien on peut s'attendre à des crues aux alentours des Alpes, du Massif central et des Pyrénées. La hausse des températures, en revanche, se confirme à partir de mercredi pour redescendre pour la fin de semaine.
Merci Valérie Darmon. Et c'est l'heure maintenant du journal des sports, Wendy Boussard.
On retrouve Axel May pour le France-Albanie, dernier match de l'année pour les joueurs de Didier Deschamps, Axel.
Le sélectionneur fête son 100e match à la tête des Bleus qui affronte l'Albanie chez elle à Tirana. Il s'agit du dernier match de qualification pour le prochain championnat d'Europe. Les Bleus ont déjà leur ticket en poche et veulent assurer ce soir la première place de leur groupe dans une ambiance qui s'annonce particulière. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Tirana.
Oui, match particulier car l'Albanie va inaugurer ce soir son tout nouveau stade. Autour de l'enceinte affluent actuellement des milliers de supporters vêtus de maillots et d'écharpes rouges et noires, surmontés d'un aigle à deux têtes, l'emblème du pays. Et puis surtout, tout le monde ici rêve d'une victoire face aux champions du monde. C'est une question d'honneur. L'Albanie, présente en France en 2016, ne disputera pas l'Euro 2020. Mais il y a eu l'affaire de l'hymne, celui d'Andorre, joué par erreur à la place de l'Umni Iflamurit au Stade de France. L'hymne albanais que vous entendez actuellement, une affaire qui est remontée au plus haut sommet de l'État. Il y a des raisons politiques aussi. On a très peu apprécié ici les récentes déclarations du président de la République Emmanuel Macron, qui n'est pas favorable pour l'instant à un élargissement de l'Europe et donc à une entrée de l'Albanie. Voilà pourquoi le sélectionneur albanais alignera sa meilleure équipe. De son côté, Didier Deschamps devrait faire tourner, même si l'objectif est de tout faire pour conserver la première place du groupe.
Et coup d'envoi de ce match entre l'Albanie et la France à 20h45. Mes soirées football à retrouver dès 20h sur Europe 1 autour de Lionel Rousseau et ses invités.
Axel, en tennis, c'est en ce moment la finale du Master de Londres.
Un tournoi de fin de saison qui voit les 8 meilleurs mondiaux s'affronter. Le grec Tsipras, tombeur en demi-finale de la Star Federer, joue contre l'Autrichien Thiem. Le match est en train de débuter. Et puis en double, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté la finale de ce Masters face à une paire sud-africaine et néo-zélandaise.
Petit point rugby maintenant avec un premier week-end de Coupe d'Europe pour la saison.
Et le Racing 92 s'est imposé à domicile contre les champions d'Europe sortants, les Saracens. Large et belle victoire, Simon Rubin.
Oui, une belle victoire et victoire importante effectivement pour le Racing. 30-10 avec 4 essais, un match totalement dominé. Des Racingmen qui en top 14 jusqu'à présent avaient eu beaucoup de mal à s'imposer, à gagner des matchs et avoir l'air, on va dire, vraiment à la hauteur de leurs ambitions. Là, c'est enfin le cas. Ils vont vraiment avec ce match sans doute lancer leur saison. Et il était temps parce que dès la semaine prochaine, ce sera un déplacement au Munster pour la deuxième journée de cette Coupe d'Europe. Un 4 victoires, eh bien les Racingmen seraient quasiment qualifiés, auraient un bon pied en tout cas en quart de finale.
Simon Rubin, en revanche, défaite de Montpellier et de Lyon à l'occasion de cette première journée de Coupe d'Europe. Et puis les sports mécaniques, avant de refermer cette page des sports, au Brésil, c'est en ce moment l'avant-dernier Grand Prix de la saison en Formule 1 et sur le circuit d'Interlagos. Le Néerlandais Max Verstappen, qui était parti en pole position, a perdu brièvement la première place et il vient à l'instant de reprendre la première place en MotoGP. Valence accueille la dernière épreuve de la saison. Victoire à domicile du champion du monde, Marc Marquez. L'Espagnol devance la révélation française de la saison, le jeune Fabio Quartararo.
Merci Axel May.
On prend la direction de l'Italie, Wendy.
Venise sous les eaux, vous savez, ce fut l'image de la semaine. Encore 1,50 m d'eau aujourd'hui. On en parle avec notre invité qui nous éclaire aussi sur l'appel aux dons lancé par le maire de Venise. A tout de suite.
19h18, vous écoutez le Grand Journal du soir sur Europe 1. Buonasera a tutti, nous partons pour Venise, une ville sous les eaux. Les images nous ont tous marqués cette semaine, Wendy Bouchard.
Et nous rejoignons sur place, juste derrière la place Saint-Marc, transformée en bassin ces derniers jours, Gabriel Milesi. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir Wendy.
Vous habitez Venise depuis près de 30 ans et vous êtes une ancienne voix d'Europe 1. Venise, toujours en état d'urgence, qui attendait encore aujourd'hui une nouvelle Acqua Alta. La situation est-elle toujours aussi critique ?
Ben, la situation a l'air de s'améliorer maintenant. Il y a eu une grande Acqua Alta ce matin, un peu moins forte que prévu. Et normalement, ça devrait petit à petit se calmer au cours des jours qui viennent.
Ça veut dire que les Vénitiens et les locaux commencent à ressortir, mais on sait que ça a été très compliqué ces derniers jours pour vous, avec des risques de noyade réels.
Oui, il y a eu des risques de noyade. Puis il y a eu surtout ces pauvres commerçants qui, ont à peine nettoyé quand les marées recommençaient. Donc, ça a été un travail de Sisyphe sans cesse. Et ils en ont marre, ils sont un peu fatigués maintenant. Il y a encore d'ailleurs beaucoup de boutiques qui sont fermées parce que les matériels électriques notamment ont grillé avec la montée de l'eau. Beaucoup de marchandises a été perdu. Là, on évalue à la louche comme ça les dégâts à peu près 1 milliard dans lequel il faut mettre bien sûr tous les dégâts sur les monuments important comme la basilique San Marco, dont la crypte a été totalement envahie par les eaux, et d'autres encore, des musées, le conservatoire, où les partitions de Vivaldi ont été complètement perdues, etc., etc.
C'est un bout du patrimoine qui s'envole ou qu'il faudra en tout cas gérer aujourd'hui dans la reconstruction. Voilà pourquoi le maire de Venise, Luigi Brugano, a lancé hier cette idée, cet appel, l'ouverture d'un compte bancaire pour tous ceux qui, en Italie, mais aussi à l'étranger, souhaitent contribuer aux réparations. Venise, c'est un peu votre Notre-Dame, en somme. Est-ce qu'il faut donner, Gabriel Milesi?
Oui, c'est même plus que Notre-Dame. Ça fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Quand on voit le nombre de touristes qui sont là, il y en a maintenant 30 millions, plus de 30 millions. Et en plus, pour une ville de 50 000 habitants. Et je dois dire que l'Acqua Alta de ces derniers jours a fait venir beaucoup de touristes parce que ils trouvaient ça très amusant de se photographier. Il y en a même qui ont nagé dans la place Saint-Marc, vous voyez, alors que l'eau est très froide. Il faut être courageux. Et donc, les touristes apportent déjà un peu d'argent, mais là, je pense qu'ils seront tous un peu solidaires pour donner quelque chose et essayer de rétablir un peu les situations qui sont des dégâts absolument considérables.
Et vous qui êtes devenu depuis 30 ans donc un local aussi, Gabriel Milesi, est-ce que vous considérez qu'on peut donner les yeux fermés, j'allais dire, on connaît un petit peu les soupçons de corruption qui existent dans la cité?
Ça, c'est toujours le problème. Mais je dois dire qu'après la grande marée de 1966, celle d'avant-hier a été la deuxième derrière, il y a des comités de sauvegarde qui se sont créés un peu de par chaque pays, et notamment il y a un comité de sauvegarde français de Venise, et je crois que c'est plus simple de leur donner de l'argent à eux, parce que moins on sait là ce que ça devient. Le donner sur un compte courant, ma foi, je ne sais pas très bien.
Voilà, donc privilégier peut-être la transparence.
Oui, la transparence.
Il y a donc, après cette réflexion sur ce projet qu'on appelle ce grand projet Moïse, ça fait 5 ans que les travaux sont en point mort, qui pourrait permettre justement de servir de digue pour protéger la lagune de la montée des eaux. Cette situation désastreuse du moment a relancé quand même le projet et l'ambition?
Je dois dire qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont venus cette semaine, beaucoup d'hommes politiques italiens, pour dire « mais on est tous avec vous, avec Venise, on va dégager les sommes nécessaires, on va faire ce qu'il faut ». Là, ils ont déjà débloqué 20 millions, ce qui n'est pas beaucoup, mais enfin, c'est 5 000 euros d'indemnité pour les particuliers, 20 000 pour les commerces, ça ne va pas aller très loin parce qu'il y a plus que ça à faire. Moïse, lui, est prêt à 93%. Même si les travaux ont été beaucoup retardés, parce que c'est toute une histoire. Il y a eu deux scandales de corruption. Le projet à l'origine coûtait 2 milliards, maintenant il est à plus de 7 milliards. Il y a 1 milliard qui a été pris par les politiques divers et variés, dont une partie dont la mafia aussi.
Oui, tout le monde s'est servi.
Qui a fait des fausses factures. Donc, il y a eu quand même des gens qui sont allés en prison et même l'ancien maire de Venise qui a été aux arrêts domiciliaires. Il y a eu un grand scandale qui a fait que tout ça a été extrêmement retardé. Normalement, là, ils ont tous promis que ça devrait avoir lieu, être mis en place très rapidement, surtout si c'est fini à 93%. Mais là aussi, c'est pareil. Il y a quand même quelques soucis parce que, par exemple, il y a eu des factures, disons, qui ne correspondaient pas tout à fait au matériel demandé, et notamment les charnières qui sont de mauvaise qualité. Et forcément, quand vous avez une digue sur charnière, si si les charnières sont de mauvaise qualité, ça risque de créer un désastre.
Oui, gageons que tout ce que vous vivez en ce moment va activer, réactiver ce projet initié en 1966, dans la philosophie en tout cas.
Oui.
Merci.
Je pense que ça devrait un peu améliorer les choses.
Merci beaucoup Gabriel Milesi et bon courage pour ce que vous vivez aussi avec...
Je vais vous faire entendre un tout petit son, si
allez-y.
Vous permettez.
Oui.
Très court, mais ça va vous donner une idée de ce qui se passe à Venise.
C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est, Gabriel ? C'est l'alerte. C'est l'alerte qui retentit pour la Coalta ? J'espère, parce qu'on a perdu.
Voilà, ça c'est la sirène qui sonne 3 heures avant pour prévenir qu'il va y avoir des très fortes aquas.
Très bien, merci beaucoup Gabriel Milesi. Voilà, c'est l'ancien homme de radio qui s'exprimait. À bientôt sur Europe 1.
Il est 19h24, Wendy Bouchard, l'heure de Planète Sauvage sur Europe 1, l'actualité des animaux en 4 minutes.
Et on commence avec la phrase de la semaine signée Elisabeth Borne, interrogée mardi sur France Inter sur son projet de protection animale.
Moi, je suis en train de mener beaucoup de concertations avec les responsables des cirques, avec ceux qui ont des delphinariums, avec ceux qui élèvent des visons. Ça fait 3 mois que je suis dans ces fonctions et dans les prochaines semaines, on annoncera un plan sur le bien-être animal. Pour ce qui relève de mon ministère, c'est la faune sauvage.
Elisabeth Borne, qui s'était émue il y a 2 mois du sort de l'ours Micha, pour lequel elle interdira courageusement la représentation en spectacle et ordonnera l'administration de soins et un placement médicalisé. Bonsoir Muriel Arnal.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre, vous qui êtes présidente et fondatrice de l'association One Voice. Vous avez suivi toute cette aventure. L'ours Micha est mort malheureusement cette semaine alors que ses nouveaux protecteurs tentaient le tout pour le tout face à son état dégradé et affaibli. Il se trouve que ce petit animal était bourré de tumeurs, que les traitements n'ont rien pu faire, mais tout le monde a essayé.
On a essayé, mais ce qui est absolument terrible, c'est que notre plainte d'il y a près de 2 ans a été classée sans suite, parce qu'à chaque fois qu'on voit un animal en spectacle, ça ne suffit pas aux autorités, et qu'il a fallu qu'on entre dans les quartiers d'hiver pour montrer les asticots qui étaient dans les pattes de Micha, ses difficultés respiratoires, et que les 2 autres ours, Bonnie et Glacha, qui sont très maigres, qui ont également des tumeurs, sont restés sur place. C'est inexplicable de voir que les services vétérinaires de l'État écrivent noir sur blanc que tout va bien. Ils écrivaient cela il y a 1 an et demi, le procureur a classé sans suite, les procureurs, les préfets font confiance aux services vétérinaires. Et là, on dit que tout va bien. Bonnie et Glacha sont toujours à dormir dans le froid parce que les cachots sont ouverts à tout vent, sur du ciment, sans eau potable, sans nourriture. C'est absolument insupportable.
Des animaux qu'on retrouve dans le Loir-et-Cher, il y a une avancée quand même. Le préfet a annoncé au député Loïc Dombreval, qui est très actif dans la protection animale et que vous connaissez bien, la réquisition de 2 experts vétérinaires pour évaluer justement la santé des ours dont vous parlez, Glacha et Bonnie. C'est une avancée ?
C'est une avancée, mais il a fallu que Micha meure, parce que c'est quelque chose que nous avons demandé au préfet début septembre au regard des images que nous dévoilions. Mmh. Et ça n'a pas bougé. Il a répondu encore une fois que tout allait bien. Il a fallu d'une part que Micha meure, et quelques jours auparavant, nous l'avions assigné en justice pour l'obliger à bouger. Donc, en fait, on est obligé de forcer les autorités à bouger. C'est ça qui est terrible, parce que ces animaux souffrent terriblement.
Et le 28 novembre prochain, vous continuez le combat, Muriel Arnal, pour One Voice notamment. Vous faites face au préfet du Loir-et-Cher en justice ?
Oui, nous avons déposé un recours contre le préfet pour qu'il bouge. Alors, peut-être aura-t-il bougé d'ici là,
oui.
Peut-être aura-t-il sorti tous les animaux qui sont chez les Poliakoff. Nous l'espérons. Sinon, il faudra de toute façon rendre des comptes.
Ce que vous souhaitez, Muriel Arnal, au fond, c'est la publication d'un arrêté ministériel qui interdirait cette pratique moyenâgeuse des montreurs d'ours, en l'occurrence, qui existe encore en France.
Il suffit que la ministre prenne un arrêté. Et dans le mois qui suit, ça s'arrête. Nous sommes prêts à aider les dresseurs à placer leurs animaux en sanctuaire. Nous avons toujours tendu la main.
Vous faites confiance à Elisabeth Borne sur ce sujet ?
Oui, nous attendons beaucoup d'Elisabeth Borne aujourd'hui. Nous avons travaillé avec elle en réunion ministérielle. Nous attendons beaucoup d'elle.
Merci Muriel Arnal. Et n'hésitez pas à nous faire part aussi de toutes les actions de votre association que vous avez fondée, que vous présidez, One Voice, que vous pouvez retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux.
Merci beaucoup Wendy, merci.
À ce sujet justement, ça y est, la mairie de Paris a tranché, elle ne veut plus recevoir de cirque avec animaux sauvages.
Une décision symbolique en effet sous forme de vœux, car en la matière c'est le gouvernement qui décide. La mairie peut faire jouer, cela dit, son autorisation d'occupation du territoire et ne plus délivrer cette autorisation au chapiteau itinérant où se produisent des éléphants, des fauves ou des otaries. On suivra tout cela pour vous.
Et c'était Planète Sauvage, l'actualité des animaux sur Europe 1. À suivre, le grand débrief de l'actu.
Les grands sujets du jour et de la semaine avec deux invités pour en débattre. L'ancienne ministre, aujourd'hui sénatrice de l'Oise, Laurence Rossignol, et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. A tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Et si vous nous rejoignez, voici l'essentiel de l'actualité, Sophie Tussaud.
Ce drame en Isère, un couple âgé de 75 ans, sans électricité, est mort chez lui à Beauvoir-de-Marc, intoxiqué au monoxyde de carbone à cause d'un groupe électrogène. Trois jours après les importantes chutes de neige, 70 000 foyers n'ont toujours pas le courant en Rhône-Alpes. La garde des Sceaux reconnaît un problème dans le système pénal, selon un rapport. Dans 65% des cas d'homicide et de violence conjugale, la justice ou la police avait été saisie. Et ce matin, une marche blanche s'est déroulée en Alsace, à Oberhofen-sur-Moder. 300 personnes ont salué la mémoire de Sylvia, tuée à coups de couteau par son mari, alors que les gendarmes avaient été prévenus. Les Gilets jaunes mobilisés aujourd'hui avec des actions dans le calme, comme aux Galeries Lafayette à Paris, pour protester contre la société de consommation. Ils sont une cinquantaine à avoir investi les lieux. Le magasin a dû fermer ses portes et ne rouvrira que demain matin. Et puis, dernière ligne droite pour la Française des Jeux, avant son entrée en bourse jeudi, et c'est déjà un succès populaire. Selon Bercy, plus d'un milliard d'euros d'actions ont déjà été souscrits par les particuliers.
Merci Sophie, à tout à l'heure 20h.
Il est 19h31, place au débrief de l'actu Wendy.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Nos invités échangent ce soir sur les sujets forts des dernières heures. Et pour nous éclairer, j'accueille en studio Laurence Rossignol. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Sénatrice de l'Oise, présidente de l'Assemblée des femmes, ancienne ministre des familles et du droit des femmes. Benjamin Morel est également bonsoir. Avec nous. Bonsoir. Docteur en sciences politiques à l'École normale de Paris-Saclay. Nous allons revenir évidemment sur la réponse de l'État face aux violences, celle des casseurs en marge du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi les incivilités au quotidien dont se plaignent aujourd'hui les maires, tribune publiée dans le JDD ce matin. Et puis les féminicides au cœur de l'actualité. Que fait l'État dans la réponse judiciaire et la prise en charge des plaintes des victimes? Certains constats rendent fous et vous réagirez. Et d'abord, madame et monsieur, ce week-end de manifestation de gilets jaunes déclarés, ces cortèges plutôt pacifiques en province, ces 254 interpellations à Paris, je voudrais vous renvoyer, Laurence Rossignol, à cette image de l'après-midi, ces Galeries Lafayette, grand magasin parisien, fermé pour la journée en raison de l'interruption pendant quelques minutes, de ceux qui voulaient, je cite, « bloquer les temples de la consommation ». Bon, on est à la fois dans les revendications du début d'il y a un an et dans une distorsion du mouvement pour vous, Laurence Rossignol ?
Non, je crois que ce qui s'est passé ce week-end est révélateur de ce qui se passe depuis le début, c'est qu'à la fois il y a le mouvement des Gilets jaunes et puis il y a les parasites qui viennent se greffer sur les manifestations, mais qui s'étaient greffés auparavant sur d'autres manifestations et qui, d'un certain point de vue, sont devenus les alliés objectifs de l'extrême droite et de tous ceux qui veulent attenter à nos libertés. Parce que ce à quoi ils nous amènent, ces casseurs, Black Bloc, appelons-les leurs différents noms, c'est à une restriction des libertés publiques, en particulier de la liberté de manifester. C'est-à-dire que ça devient un problème de manifester. Et puis à côté d'eux, à côté de leurs actes, il y avait des gilets jaunes qui étaient là, plutôt pacifiques, avec toujours cette ambiguïté, c'est que les gilets jaunes ne condamnent pas réellement les casseurs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de connivence, mais de complaisance parfois. Oui, de complaisance. Ils ne les sentent pas comme étant totalement étrangers à ce qu'ils sont. Mmh. Et les Galeries Lafayette, effectivement, c'est un des temples de la consommation, mais de luxe. En plus, tout est cher aux Galeries Lafayette. C'est le lieu où ils n'iront jamais faire leurs courses. Et c'est un lieu, et ça incarne ce qui, à mon avis, est la grande difficulté du gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des mesures de prise l'an dernier. Il y a des milliards qui ont été mis sur la table. C'est quand même vrai, du vrai argent. Et en même temps, les mesures n'apaisent pas réellement les Gilets jaunes, n'apaisent pas réellement le pays, parce que ce qui est en cause, c'est une critique et une contestation beaucoup plus fondamentale du système, qui va au-delà des mesures primes d'activité. Et voilà. Et le gouvernement est dans une seringue qui est assez compliquée
pour longtemps, à mon sens, avec les gilets jaunes.
Alors, il y a des images, évidemment. Alors, bon, tout n'est peut-être pas très cher aux Galeries Lafayette. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi toutes ces personnes qui peuvent aller faire du lèche-vitrine et regarder ces fameuses vitrines de Noël, Benjamin Morel. Ce que je retiens aussi, quand même, de ces dernières heures, c'est les discours de fermeté, partagés à la fois par le préfet de police de Paris, hier, qui invitait ceux de bonne foi à quitter les cortèges et traduisait la débilité des autres. Ceux du ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Christophe Castaner, parlant de brutes, de barbares, d'imbéciles, une fois de plus. C'est un peu nouveau, ça.
C'est un peu nouveau et pas tant que ça, si vous voulez.
Pour ces mouvements gilets jaunes, oui.
Oui, souvenez-vous tout de même des discours assez martiaux qui avaient été ceux de l'exécutif au moment de la pointe de ce mouvement des gilets jaunes et puis ensuite un petit peu après. Si vous voulez, on a un mouvement aujourd'hui qui s'est fondamentalement transformé. Quand on prend les études aujourd'hui qui parlent de ce mouvement, on voit une évolution certaine entre les gilets jaunes du début, les gilets jaunes du milieu, d'une certaine façon, avec une transformation des revendications. Mmh. On passe de revendications plutôt sur les impôts et sur le pouvoir d'achat à des revendications plus politiques, au sens de transformation du système politique, et aujourd'hui, des revendications qui sont plus liées à un noyautage du mouvement par certaines composantes. Quand on voit aujourd'hui qui tient les cortèges, vous avez des militants souverainistes, des militants régionalistes, et beaucoup de militants qui viennent de la gauche, voire pour certains de l'ultra-gauche. Quand on conteste le capitalisme et qu'on prend les Galeries Lafayette, il y a là une technique qui est assez propre aux nouveaux mouvements sociaux, plutôt issus de la gauche écologique et de l'extrême-gauche, qui aujourd'hui tiennent fondamentalement certains pans de ce mouvement. C'est lié en fait à tout bêtement l'absence de structuration de ce mouvement. Dans un mouvement qui manque de structuration, les groupes les plus organisés, en l'occurrence les groupes que j'ai cités, évidemment s'imposent et imposent leur agenda. Quand le mouvement s'affaiblit, eh bien ces mouvements, ces groupuscules, ont un peu pignon sur rue. C'est à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc vous avez une démobilisation des gilets jaunes de base, vous avez une capacité d'action de certains mouvements qui sont relativement minoritaires. Et pour le gouvernement, le pari, eh bien, c'est de s'opposer à ces revendications qui sont minoritaires en jouant sur un discours qui est un discours
martial.
Bien sûr,
avec des mots un peu forts. On l'a entendu, Jacqueline Mourot, qui était à l'initiative de ce mouvement, dire « arrêtez d'emmerder les Parisiens, il faut que le mouvement mute ». Et je suis sûre que ce témoignage va vous plaire, Laurence Rossignol. Il s'agit de celui de Jérémy Clément. Il était à votre place hier, invité ici, Gilets jaunes du Loiret. Et il a fondé les Ronds-Points du Cœur. Voilà ce qu'il reste pour lui aussi du mouvement. Écoutez.
La dernière action qu'on vient de faire, elle a été faite par un adhérent qui s'appelle John Ferranda, qui est dans les Hautes-Pyrénées, je crois, où il nous a appelé en disant « voilà, il y a une action, on a une épouse, j'ai une copine, son mari là-bas, elle a porté plainte, est-ce qu'on peut l'appuyer ?» Il a été appuyé au nom des Ronds-Points du Cœur. Aujourd'hui, cette personne qui violentait sa femme a pris 24 mois de prison ferme. Et bien ça, c'est une action concrète. Après, il y a les frigos qu'on remplit, des gens qui dorment dehors, qu'on aide.
Comment on a retissé aussi le lien avec ces fameux ronds-points ?
Oui, on a retrouvé du sens. Je t'ai frappé dans mon département, l'Oise, qui est un département qui a eu beaucoup de ronds-points occupés, mouvements gilets jaunes divers, intéressants par bien des aspects. C'est toujours une identité d'être gilet jaune. Les gens ne sont pas forcément actifs comme gilets jaunes.
Oui.
Ils n'occupent plus les ronds-points.
Ils ne le portent plus forcément d'ailleurs.
Voilà, ils ne portent plus forcément le gilet, mais ils se sentent gilets jaunes. Ils ont une nouvelle identité avec des réseaux, des liens, des solidarités. En fait, il y a quelque chose qui relève du sens aussi. En fait, les Galeries Lafayette, c'est la consommation. Moi, j'ai rien contre les Galeries Lafayette, hein, je ne veux pas avoir d'ennui avec qui que ce soit, mais ces magasins qui sont très luxueux, c'est la consommation, mais c'est aussi la perte de sens. Et les ronds-points, il y a eu du sens retrouvé dans le lien social, dans la solidarité, des gens qui sont sortis de leur solitude aussi. Et notre société est une société qui mêle à la fois la solitude et l'hyperconsommation. Et c'est tout ça qui est interrogé par la population, en fait. Oui. Chacun d'une manière différente.
Oui. Et ce qui était intéressant, justement, dans ceux qui ne portent plus forcément, Benjamin Morel, ce gilet jaune, c'est qu'il y a eu tellement de couleurs qui les ont rattrapés, tellement d'uniformes, les blouses blanches, les uniformes bleus, que pour ceux qui se sentent citoyens avant tout, finalement, cette seconde peau n'a plus vraiment de sens. Il faut être dans la rue peut-être, mais plus porté de couleurs.
Si vous voulez, cette question de l'identité gilet jaune, elle a en effet été fondamentalement marquante, si vous voulez. Et il va falloir voir un petit peu, il va falloir voir pour appréhender quelles vont être ses conséquences politiques. Quand vous dites ne pas porter de couleur, c'est d'une certaine façon se retrouver dans la citoyenneté. Aujourd'hui, on voit très clairement que pour ceux qui se sont ressentis gilets jaunes, et quand on demande aux Français « vous sentez-vous gilets jaunes ?», on obtient en fait des pourcentages qui sont assez importants, hein, de 30 à 50%. Donc vous voyez que là-dessus, on a tout de même une partie de la société qui, à travers ce gilet, eh bien, s'est retrouvée à la fois dans une identité. Et cette population-là, était une population qui avait plutôt tendance à s'abstenir d'un point de vue électoral. Donc l'un des enseignements sur le long terme qu'il va falloir tirer de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est est-ce qu'on va avoir une remobilisation de ces catégories populaires et de ces classes moyennes qui se réfugient dans l'abstention et qui peuvent être une force politique de moins importante pour tel ou tel parti politique. Je ne parle pas forcément d'une structuration politique. Ensuite, on voit très bien que ce gilet jaune, il a été également un symptôme de colère, d'une citoyenneté en colère, parce que d'une citoyenneté qui n'était pas entendue ou qui ne se sentait pas entendue. Mmh. Quand on prend aujourd'hui les enquêtes d'opinion, on voit que la volonté de poursuivre le mouvement s'est émoussée, mais qu'en revanche, la colère est toujours là et qu'à partir de là, elle peut se manifester sous le fanion de cette identité ou sous le fanion d'autres mouvements sociaux de façon assez rapide et de façon assez incontrôlable.
Laurence Rossignol, vous vouliez réagir ?
Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans les mois à venir, ce qui sera intéressant, c'est que d'observer comment ce que les Gilets jaunes ont porté continue d'occuper l'espace politique. Par exemple, la question de la désertification dans le rural, de la désertification médicale, de l'accès aux services publics.
Ce qui est relayé par les maires d'ailleurs, qui sont en colère aussi.
Par les maires, par les personnels hospitaliers. Tous ces sujets-là qui faisaient partie de l'ensemble Gilets jaunes sont toujours à l'agenda politique du gouvernement et du pays.
Oui, absolument. On parlera des maires d'ailleurs dans un second temps et vous verrez que beaucoup se répondent de ces discours. A tout de suite avec nos invités Laurence Rossignol et Benjamin Morel pour refaire l'actualité dans ce grand débrief, les féminicides, évidemment, juste après la pause.
Le grand débrief de l'actu se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard, et vos invités. Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise et ancienne ministre du droit des femmes, et Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2.
Avec à la une des éléments d'un rapport de l'Inspection générale de la justice relevé dans le JDD, mettant en avant notamment un signalement par les professionnels de santé qui n'est pas opérant, les services enquêteurs qui recourent majoritairement aux mains courantes sans les transmettre au parquet, les dispositifs de protection en vigueur insuffisamment utilisés, le suivi des auteurs perfectible. Ces sujets-là, vous les connaissez, j'allais dire, hélas, par cœur, Laurence Rossignol. Vous avez été en charge notamment de ce dossier 2016-2017, si je vois clair. Rien n'a bougé depuis lors. Alors, on fait toujours le même constat. Une femme meurt toujours tous les 3 jours sous les coups de son conjoint.
Malheureusement, c'est plus que tous les 3 jours maintenant. Le nombre de féminicides a beaucoup augmenté au cours de l'année 2019, puisque c'était 120 environ dans les années précédentes. Et là, on est déjà à 136 aujourd'hui. À 136 aujourd'hui, donc il y a une augmentation. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on essaye de comprendre pourquoi. Est-ce que ça s'inscrit dans une augmentation globale des violences aux personnes? Oui. Est-ce que c'est une réaction à la montée des revendications des femmes? Oui. On ne peut pas l'exclure que ce soit une revanche quand même, une violence qui s'exprime à l'encontre des femmes.
C'est-à-dire des femmes qui s'exprimeraient plus, mais qui seraient encore plus maltraitées, voire tuées.
Oui, voilà. Donc, ce serait intéressant qu'on essaye de comprendre pourquoi. Mais ce que je voulais dire sur le rapport, c'est qu'il ne nous apprend rien à nous qui sommes engagées, militantes, qui observons ces sujets depuis plusieurs années. En revanche, ce qui est bien, c'est que pour la première fois, la justice sort du déni de ses propres responsabilités dans la survenance des féminicides. Ça, c'est ce qu'il y a de vraiment l'élément important, il est là. Les erreurs dans la chaîne pénale, les failles, tout ça, on les avait identifiées. Maintenant, la justice admet. Et ce serait intéressant qu'on ait le même sur la police aussi. Parce qu'avant la justice, il y a la police. C'est les dépôts de plaintes, les mains courantes qui continuent d'être proposées aux femmes alors que tout le monde sait qu'une main courante n'a aucun intérêt.
Ça parce qu'elle n'est pas transmise au parquet.
N'est pas transmise. Enfin, ça n'a pas de valeur juridique, quoi, une main courante. Donc la question pour nous, c'est que va faire le gouvernement aujourd'hui? Et là, je dois dire que je suis un peu perdue. Parce qu'on est en train d'examiner une proposition de loi, dite proposition de loi Pradier, qui a été vue à l'Assemblée nationale et au Sénat déjà une fois. Cette proposition de loi est sur l'ordonnance de protection, c'est-à-dire sur la manière de protéger les femmes avant les procédures de divorce ou pendant les moments où elles sont vraiment en danger. Donc ça permet l'éviction du conjoint, une protection plus grande. Mais toutes les propositions que fait la ministre aujourd'hui, elle les a toutes refusées au Sénat il y a 15 jours. Toutes. Donc je ne comprends pas comment elle peut annoncer aujourd'hui que, par exemple, on va suspendre l'autorité parentale.
Parce qu'elle s'était opposée il y a quelques jours encore.
Il y a quelques jours, avec ma collègue Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice de Paris,
manifestement, vous l'avez convaincue.
Je ne sais pas si je l'ai convaincu parce que le Premier ministre avait déjà fait la même annonce le 3 septembre. Mmh. Et là, on est quasiment fin novembre et toutes les propositions qu'elle fait aujourd'hui, ils les ont refusées pendant les trois mois qui viennent de se passer. Et il n'y a plus de fenêtre dans l'agenda du Parlement dans la période qui vient. Donc moi, j'en profite d'être chez vous, qu'aujourd'hui, on ait pris connaissance de ce rapport, des propositions de la ministre pour dire voilà, on a une proposition de loi. Il faut encore l'améliorer. Et toutes les propositions, c'est maintenant. Parce qu'on ne peut pas attendre que le gouvernement ait fini d'organiser ses divers plans de communication, les petites compétitions entre les ministres qui se grillent la politesse en faisant des annonces les unes avant les autres, puisque quand même, il y a le 25 novembre, la restitution du Grenelle qui doit arriver. Donc tout cela doit être tenu à distance. Et on doit penser qu'à une seule chose, protéger les femmes et au plus vite. Et le calendrier parlementaire, vous le savez bien, M. Morel, n'est pas un calendrier qui vit au même rythme que la protection des femmes. Donc quand on a un véhicule législatif comme on en a un, on le renforce et on y met tout ce qu'on doit y mettre. Et aujourd'hui, il manque encore beaucoup de choses.
Merci pour ce discours clair, Laurence Rotignol. Votre point de vue, Benjamin Morel, alors je ne sais pas si c'est l'aspect communication aussi qui vous intéresse sur ce sujet grave, mais vous pouvez réagir.
Oui, si vous voulez. En effet, je souscris à tout ce qui a été dit. Si vous voulez, d'autant plus que les données étaient déjà sur la table au mois de juin. C'est-à-dire lorsque on a commencé à avoir ce dossier qui a monté d'un point de vue politique et médiatique, déjà beaucoup de choses étaient sur la table et les éventuelles évolutions législatives auraient pu être intégrées en amont. Donc là, on a un rapport qui est assez intéressant, si vous voulez, mais un rapport qui, en effet, n'apprend pas grand-chose. Il y a peut-être juste une proposition qui pourrait peut-être interroger, celle sur le secret médical.
Le levé du secret médical, voilà, on attend la réaction des médecins.
Le 225-14, parce que là, pour le coup, est-ce que des femmes oseront parler à un médecin si elles ont peur que ce médecin communique des informations? Donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir. Tout le reste, tout de même, eh bien, montre que vous avez un bon traitement en aval du crime, mais un très mauvais traitement en amont. Alors ça pose des questions en effet de signalement, etc. Mais ça pose également, et peut-être à ce que j'aimerais surtout réagir là-dessus, un problème de moyens de la justice. Parce que pourquoi est-ce qu'on a une multiplication des mains courantes?
Pourquoi 80% des plaintes sont classées sans suite?
Parce que également, la justice aujourd'hui n'a pas forcément les moyens en termes de temps, en termes d'effectifs, la police également, de mener au bout toutes ces enquêtes. Donc là, au-delà des dispositifs qui pourraient être mis en place, au-delà de la communication politique également qui a son importance, il y a également un problème de moyens aujourd'hui dans les tribunaux et sans la mise en place de ces moyens qui pour l'instant ne sont pas à l'ordre du jour, eh bien on voit mal comment à terme on pourrait s'en dégager. Quand on prend le cas espagnol qui apparaît comme un exemple, il ne faut pas oublier que l'Espagne a mis beaucoup d'argent sur la table pour arriver au résultat auquel elle est parvenue.
C'est ça le paradoxe, en tout cas l'affichage pour l'opinion publique. On a ce grand Grenelle des violences conjugales qui dure trois mois. On a les ministres qui sortent du bois, qui s'expriment. Finalement, c'est pour peut-être... Voilà,
mais et pas un centime
c'est
de
pourquoi
plus.
C'est un contrat, c'est un vernis sur...
C'est de la communication. C'est de la communication. C'est une tentative face à un phénomène qui est en augmentation, qui est celui des féminicides, et puis une sensibilité de l'opinion beaucoup plus grande qu'elle ne l'était auparavant, grâce quand même d'abord au travail des associations et des militantes. Le compte Twitter féminicide par compagnon ou ex-compagnon, qui fait le relevé quotidien, au jour le jour, des féminicides, fait qu'aujourd'hui, on n'attend pas les chiffres en fin d'année. On a vu les chiffres monter. Donc, il y a un sujet, le gouvernement le sait, il n'y a pas un centime de plus. Et il ne traite en fait que les questions de communication. C'est pour ça qu'on a été accompagnés, on est un peu en colère.
Attendons le 25 novembre. Et les conclusions pour l'argent.
Pour le moment, ce qui a été dit jusqu'à présent, et le budgétaire, enfin, on est en train de voter le budget
quand même.
Alors, peut-être le 25 novembre, il va y avoir une annonce budgétaire importante. Mais pour le moment, elle n'est pas là, l'annonce budgétaire. Et le projet de loi de finances a déjà été discuté, au moins dans une assemblée.
Benjamin Morel.
Oui, il va falloir faire très attention à ce que sur ce sujet-là, on n'en reste pas à des symboles. Si, admettons, on qualifie le crime de féminicide et qu'on y adjoint une peine plus importante, on voit qu'aujourd'hui, alors ça peut être utile, etc., il n'y a aucun souci, mais on voit qu'aujourd'hui, le traitement en aval est plutôt bon. Mais si on se contente de ça, on ne règle pas fondamentalement le problème. Le problème, encore une fois, il est en amont. Il coûte plus cher, et parce qu'il coûte plus cher, il est beaucoup plus difficile à régler. Donc, à la fin de cette affaire, il va vraiment falloir voir si les moyens sont sur la table. Si les moyens ne sont pas sur la table, j'ai peur que malheureusement, on n'ait fait que mettre un sparadrap sur une plaie béante.
Oui, parce que on pourrait avoir la même réflexion à propos des violences sexuelles et de la manière dont elles sont traitées par la justice. Mmh. On a le même taux de classement sans suite des plaintes. En fait, quand on a un prévenu arrive jusque devant la justice, il est condamné. Voilà. Mais le problème, c'est que beaucoup n'y arrivent pas et beaucoup de femmes voient leurs plaintes, que ce soit pour violences sexuelles ou pour violence conjugale, classées, pas suivies, elles n'ont pas de réponse. Alors je crois qu'il y a aussi un problème de culture. Alors, l'argent, c'est déterminant, mais il y a aussi un problème de culture, c'est qu'en fait, on ne croit pas les femmes. Il y a une présomption de mensonge qui pèse sur la parole des femmes.
C'est encore vrai, ça, pour vous, Laurence Rossignol ?
C'est encore vrai.
L'impression que les chiffres prouvent le contraire.
Bah, tout le travail que vous faites, vous et vos confrères et consoeurs journalistes, et qui racontent des cas, parce que là, faut examiner les cas, ce n'est pas les statistiques qui disent ça, racontent qu'en fait, les femmes ne sont pas crues. C'est-à-dire que quand une femme dit qu'elle est victime, au lieu de se demander immédiatement comment on va la protéger, on se demande pourquoi elle vient dire ça. Pourquoi elle vient dire ça ? Il y a toujours l'idée que la femme utilise la plainte pour violence, pour d'autres fins, à d'autres fins que sa protection.
C'est
et
vrai,
en fait,
c'est
quand on... mais c'est la même chose pour les victimes. On peut avoir la même discussion sur MeToo et les victimes de violences sexuelles qui ont parlé. En fait, tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, c'est une présomption de mensonge et de manipulation. Les femmes sont historiquement des menteuses dans la littérature et dans les représentations.
Conclusion là-dessus, Benjamin Morel ?
Oui, si vous voulez, encore une fois, il y a, à mon avis, deux grands chantiers majeurs, c'est-à-dire le chantier de la rénovation de la justice et en effet le chantier de la pédagogie, de la formation, notamment auprès des policiers.
Parce
que cette évolution des mentalités, au-delà des magistrats, surtout au niveau de la police, de la prise de plainte, là, il y a un vrai travail qui doit être fait. Encore une fois, on est sur l'amont et même la formation, ça coûte de l'argent.
Merci de votre présence à vous deux et des mots forts que vous avez délivrés sur l'antenne d'Europe 1. Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, présidente de l'Assemblée des femmes aussi, hein, ne l'oublions pas, ancienne ministre des Familles. Et merci à Benjamin Borel, docteur en sciences politiques à l'École normale de Paris-Saclay. À bientôt sur l'antenne d'Europe 1. Les temps changent, j'arrive avec François Ploss.
19h54, la suite et fin du Grand Journal du soir sur Europe 1.
Les temps changent. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est une addition terrible pour le Real Madrid.
Beaucoup ont brûlé, ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Europe 1,
l'air du temps. François Claus.
Et la société telle que vous la ressentez. Bonsoir François Claus.
Bonsoir Wendy. Ce fut un électrochoc, comme dirent les critiques à Cannes en mai dernier, et le film arrive enfin sur nos écrans. C'est l'histoire d'un quartier, Montfermeil, c'est l'histoire d'une bavure, c'est l'histoire de la guerre entre des flics et la cité. C'est le premier film de Monsieur Ladji Lee, lui qui fut un cop-watcher dans sa cité. Vous savez, ces jeunes qui utilisent leur iPhone pour filmer la police, lui qui, adulte, a décidé de prendre la caméra, lui qui a fait le choix aussi de sortir de sa cité pour aller partager le quotidien de ceux qu'il combattait. Ça s'appelle Les Misérables.
Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Eh, les gars, soleil.
Ceux qui le respectent, je me barre. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
Arrête-toi, là !
Vous n'éviterez pas la colère et les cris.
C'est quoi votre putain de problème, là ? C'est moi, la loi !
Ça ne vous rappelle rien, Wendy ? Flashback, 25 ans en arrière, Cannes, déjà, ils sont tapis rouges, le public, déjà, debout, la banlieue, déjà, Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz, la haine et son final explosif.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Étrange sensation de copier-coller un quart de siècle plus tard. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. En 1995, La haine était un film noir et blanc métaphorique, volontairement provocateur, devenant prémonitoire. En 2019, Les Misérables nous renvoie une image colorée, mais surtout un film tout en gris. La haine, c'était le coup de poing. Les Misérables, c'est le mal-être. La haine, on pouvait encore se dire, c'est là-bas, en banlieue. Les Misérables, c'est notre France, celle qu'il y a seulement 4 ans, une éternité, blessée dans son cœur, serrait les rangs, saluait ses héros, la France bleu-blanc-rouge.
Hommage à la police, respect et bravo quoi. J'ai des frissons, je sais pas quoi vous dire, je suis ému. Et franchement, je suis fier d'être français.
Je suis fier de mon pays, je suis fier de la France, la police du rassemblement, ouais. Et je suis fier que les gens y viennent ici pour justement pour être unis, voilà.
Cette même France qui, 4 ans plus tard, brûle ceux qu'elle vénérait, la France en jaune.
Nous, on est en train de reculer pour se repositionner et on voit bien que c'est lui qui avançait vers nous pour frapper et me visait vraiment le visage pour mettre au sol, mettre un KO. J'ai déjà fait des maintiens de l'ordre, mais jamais avec une telle violence en si peu de temps. C'était de la violence gratuite.
Cette violence à fleur de peau qui se cristallise entre les forces de l'ordre déboussolées avant où nous étions là pour protéger le peuple, aujourd'hui, nous sommes là pour protéger les institutions contre le peuple, dit un haut responsable de la police. Une angoisse qui nous ronge. Hier, les gilets jaunes, aujourd'hui, les uniformes bleus, demain, peut-être, les blouses blanches. C'est cette France à fleur de peau que nous renvoie au-delà de la cité les misérables. Une France fracturée qui ne sait plus se parler, devenue un archipel, si l'on en croit le politologue Jérôme Fourquet. Une France prête à en découdre, bloc contre bloc, si l'on en croit un autre politologue, Jérôme Sainte-Marie. Et au fait, Wendy, vous savez pourquoi ça s'appelle Les Misérables ? Référence à cette citation de Victor Hugo, « Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, seulement des mauvais cultivateurs ». Quand on demande à l'Adjili qui sont les mauvais cultivateurs, il répond sans embâge « Les politiques, ceux qui depuis la haine étaient censés organiser notre société. » Impressionné par l'accueil critique, Emmanuel Macron a proposé au réalisateur d'organiser une projection à l'Élysée. L'Adjili a refusé, lui demandant de venir, lui, voir le film à Montfermeil. Pour le moment, pas de réponse.
Merci François Claus pour cette humeur du moment. Merci à Marlène Duret, à Kevin Ousti, à Fabien Lecoeuf, cher Fabien, de nous avoir accompagnés, à Naïma Bencheban et Thibault Lambert qui ont programmé cette émission. C'est un plaisir vraiment de vous accompagner les samedis et dimanches soirs. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouverai à 18h samedi prochain. Vous serez là Fabien, hein ?
Bon, il sera
en
là.
Attendant, Lionel Rousseau vous accueille pour la soirée. Foot, cher Lionel, il y a du lourd ce soir.
Absolument, c'est la dernière rencontre de l'Euro pour les Bleus en Albanie, à Tirana, dans un stade tout neuf d'ailleurs. Donc les Bleus vont l'inaugurer et c'est un match surtout pour terminer premier du groupe, puisque vous le savez, les Français sont déjà qualifiés pour l'Euro.
Allez, soyez forts les Bleus, merci et bonne soirée Lionel.